bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Singapour sur le circuit de Marina Bay. Singapour, c'est un décor de rêve pour un Grand Prix de rêve. Et pour une fois, on ne nous a pas trompé, on a beaucoup rêvé puisque l'on a beaucoup dormi dimanche. Ouais. Mais rassurez-vous, si vous avez raté la fin du Grand Prix parce que vous sommeillez, il n'y a pas de souci puisque de toute façon, Sébastien Vettel a été fidèle à lui-même, comme Lewis Hamilton. Pour m'accompagner, comme d'habitude.
Ah oui, quelle ambiance.
Direct. Ouais. Toi, t'as envie que ça parte en vrille? T'as envie que je fasse mon Christophe Ondelat?
Non, ne pars pas.
Oh, attends, j'ai dit, on va peut-être réfléchir avant.
Donc déjà, remarquez d'abord que Gino est là, il ne dort pas.
Hein, oui. Lui.
Ça va?
Ça va.
Et vous avez peut-être déjà reconnu notre guest. Alors les gars, comme d'habitude...
Bonjour, en fait.
D'abord, bonjour.
Oui,
parce que je sais, hein, je sais que je ne fais pas l'unanimité, mais je suis poli.
Alors, comme d'habitude, première question, qu'avez-vous pensé de cette course?
J'étais inquiet.
Tu étais inquiet?
Oui.
Pourquoi?
Parce que j'ai pas eu de nouvelles de toi avant le Grand Prix et j'ai cru que t'étais mort.
Ah oui.
Et là, quelle déception, je vois que t'es vivant.
Bah oui, parce
moi
que
qui pourtant ai mobilisé tous les fans sur les forums pour qu'ils te fassent ta peau.
Il a fait la tournée des Kevin.
Le problème, j'ai été sauvé par le fait que les fans de Ferrari se sont eux-mêmes suicidés hier, puisqu'ils ont perdu le...
Oui, c'est vrai qu'ils sont plus très nombreux.
Oui.
Enfin, à l'ouvrir, hein, parce que...
Ouais, voilà, ouais.
Vous inquiétez pas que l'année prochaine, si on gagne, ils vont l'ouvrir.
Ouais, non, mais pas l'année prochaine non plus. Hein. Grand Prix, que dire.
Moi, j'ai long. Bien aimé.
Oui, mais long.
C'est long, ouais.
Oui, voilà, c'est un Grand Prix qui mériterait d'être un peu comme Monaco, réduit en distance, je crois que... est-ce qu'il fait 300 bornes, celui-là?
Il fait 300 bornes.
Il mériterait d'être réduit un peu comme
c'est Monaco. C'est vrai que franchement, je sais pas. En moins, ça serait peut-être pas un mal.
Ou alors qu'on réduit le circuit, quoi.
Non, mais moi, j'aime bien le Grand Prix parce que c'est quand même... Enfin, c'est l'impression que ça donne, c'est quand même un des rares Grands Prix sur lequel t'as l'impression quand même qu'il dépasse leurs limites, quoi.
Bah, c'est vrai que pour le coup, ça a un côté un peu course d'endurance, presque.
Bah voilà, exactement.
Et que ça dure 2 heures, voilà, que ça soit éprouvant.
Ouais, mais c'est long.
Ouais, mais bon, enfin...
Mais ça va, ils sont pas tous comme ça.
Je n'arrive pas à me décider.
C'est vrai que c'est la seule course où, au bout d'une heure, tu regardes à un moment, tu fais « Putain, ils ont fait que la moitié des tours !»
Ouais, mais ça...
Sur ce, on va passer, comme d'habitude, on était le 25 septembre.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est pas drôle en fait.
Donc, chers amis, nous étions le 25 septembre.
Chers amis.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Donc, mes pas très chers amis, nous étions donc le 25 septembre et nous allons remonter au 25 septembre 1513 avec un explorateur espagnol, Vasco Núñez de Balboa.
Qui a découvert la ville de Balboa.
Je ne sais pas s'il n'a rien de parenté avec...
Qui, Balboa?
Voilà. Qui, après avoir traversé l'isthme de Panama, devinez ce qu'il a découvert?
Le Pacifique.
Exactement, il a découvert l'océan Pacifique.
Cette découverte.
En même temps, il avait une chance sur deux, c'était soit le Pacifique, soit l'Atlantique.
T'as des mecs qui ont découvert la pénicilline, des mecs qui ont découvert l'électricité, non, lui a découvert l'océan Pacifique.
Techniquement, ouais.
Qui d'ailleurs ne porte même pas son nom.
C'est vrai.
C'est lui.
C'est la race.
Le mec qui s'est fait avoir.
C'est Magellan qui a donné son nom à l'océan Pacifique, parce que quand il a traversé leur tour du monde, il n'a pas eu de tempête, il n'a pas eu d'emmerde. Jusqu'à, bien sûr, les Philippines où...
Je vais dire ça au navigateur d'aujourd'hui, je peux dire que les mecs, ils l'appelleraient pas le Pacifique.
Ah oui, tout à fait, t'as tout à fait raison. Sinon, en 1547, on passe de l'autre côté de la planète, on passe en Russie, c'est le sacre de Ivan IV, dit Ivan le Terrible.
Ah.
Le fameux tsar Ivan le Terrible, hein, celui qui...
Qui roule d'ailleurs pour Chevrolet, en WTCC.
Non, la question c'est à quel point il était terrible. Eh bien, faut savoir que c'est lui qui a fait construire la fameuse cathédrale de Basilio Bienheureux, vous savez, cette très célèbre église russe, vous savez, avec ses bulbes de toutes les couleurs, qui est à Moscou, qui est en face du Kremlin.
Ah oui,
eh bien, voilà, c'est très joli. Et
c'est vrai.
Pour que l'architecte ne refasse plus jamais un tel chef-d'œuvre, eh bien, à l'époque, il n'existait pas de clause de non-concurrence, hein, ça ne se faisait pas.
Il
lui
a crevé les yeux.
Il lui a crevé les yeux, exactement.
Oh, seulement. Moi, je l'aurais tué, le mec. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse, la tilk. C'est qu'on lui dise, t'es trop bon, mec. T'es trop bon, faut qu'on te crève les yeux.
Reste sur ton chef-d'œuvre coréen.
Non, 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 non. Je dois dire que j'ai eu aujourd'hui F1 2011. Et le premier truc que j'ai fait, c'est un petit tour du circuit de Bud. Et il est très sympa. Ah, oui. Faudra voir en vrai, mais en tout cas, dans le jeu, il est plutôt
canard,
sympa.
Là.
Oui. Oui, voilà.
On va passer au 20e siècle avec en 1921 la mise en service de quelque chose qu'on connaît bien, vous savez, c'est la mise en service de l'Avus.
Ah. Hein,
cette fameuse première autoroute, c'était la première autoroute construite au monde et qui a été ce fameux circuit dont on a parlé. Oui, ça
tu sais qu'à une époque, ils ne savaient plus où elle se trouvait et quand ils l'ont redécouvert, ils ont fait rien à retrouver l'Avus. Voilà, voilà.
T'as compris ?
Oui, oui, oui. Non, mais j'ai eu une mort cérébrale pendant quelques instants.
Non, mais ça me tenait à cœur en fait. Faut que je vous dise, j'ai un petit carnet dans lequel j'ai des blagues qui me tiennent à cœur. Et bon, bah, là, je l'aurais rayé au moins.
À la fin de sa vie, il fera le décompte. Chérie, oui. J'en ai fait 9712. Il m'en reste plus que 13 000. Donne le carnet à mon fils quand je ferai mon œuvre.
À Fab 008. Je vais son fils. Il sera la suite.
À savoir que Fab a déjà hérité du carnet de son père.
Fab 006.
C'est une longue lignée, vous savez.
Une longue lignée qui remonte à Fab MCLVLL. C'est très bien fini. Sinon, le 25 septembre 1932, eh bien, c'est la Catalogne qui accepte l'autonomie avec son drapeau, sa langue et son parlement. Alors, sa langue existait déjà, mais je pense qu'elle a été reconnue, voilà, en 1932. Sinon, en 1939, il est à noter que le 25 septembre, ce fut cette année-là la chute de neige la plus précoce à Montréal, au Québec, avec 8 cm. Ce qui est bien la preuve que cette page du 25 septembre a été écrite par des Québécois, parce qu'il n'y a que des Québécois pour s'intéresser à un truc pareil. 25 septembre 1972, Kakuei Tanaka, premier ministre japonais, arrive à Pékin. C'est la première fois depuis la guerre qu'un chef de gouvernement japonais se rendait en Chine. Il faut savoir que les relations diplomatiques entre ces deux pays sont même encore aujourd'hui extrêmement tendues. Hein, leur parlez pas de Nankin, par exemple.
Oui.
En 1980, un triste jour pour la musique, puisque c'était l'ultime concert de Bob Marley. Le 25 septembre 1992, c'est le premier divorce d'un enfant de ses parents aux États-Unis. Le jeune Gregory Kingsley, qui était âgé de 12 ans. Il a divorcé de ses parents.
Il a divorcé de ses parents?
Oui. Pour adultère?
Vous m'avez trompé! Vous avez offert une part de tarte au petit voisin! Bande de salauds!
Sinon, le 25 septembre 1997, dans le désert de Black Rock, dans le Nevada, le Britannique Andy Green franchit le mur du son à bord du autofusée appelé Trust Supersonic Car. C'est bizarre que les gens qui s'occupent de ça, de ce projet-là, c'est des Anglais, ils vont retenter un record prochainement, et donc ça va être pareil avec une espèce de voiture fusée avec des moteurs de fusée. Il faut savoir que la pompe à essence, je dis bien la pompe à essence, hein, ça sera le V8 Cosworth. Le 25 septembre 2003, en fait, a été remis le rapport d'étape de la fameuse canicule. Donc la canicule qui a duré principalement du 4 au 13 août aurait donc provoqué 14 802 décès supplémentaires, hein, par rapport à la normale. Et donc c'était un rapport de l'INSERM, hein, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Les naissances du 25 septembre, en 1921, c'était la naissance de Jacques Martin. Mais attention, pas Jacques Martin, le présentateur télé.
Mystère.
Jacques Martin, l'auteur de bande dessinée.
Ah.
Notamment l'auteur de Alix.
Ah.
Alix, une BD qui se passe à l'époque de l'ancêtre de Fab, hein, parce que c'est une BD qui se passe pendant l'Empire romain. BD assez célèbre de la BD franco-belge.
Ah oui, Alix, oui, d'accord.
Voilà. Sinon, le 25 septembre 1944, c'était la naissance de Michael Douglas.
Ah ouais.
L'Américain. Oui, bah, quand même, tu vois, qui c'est.
Sosie de Dev.
Sinon, le 25 septembre, c'est un grand jour pour tous les geeks. Puisque en 1951, naissait Mark Hamill.
Ah ouais.
Eh oui.
Ah oui.
C'est Marc Fab.
Non, je ne sais pas qui est Mark Hamill.
Ah, si je te dis Carrie Fisher, ça va peut-être te mettre sur...
Non, non, Shinji, tu peux expliquer.
Si on te dit Carrie Fisher, si on te dit Harrison Ford, si on te dit que lui n'est pas le père parce que c'est le fils...
Oh, j'en ai marre!
J'ai toujours été nul en devinette, moi.
Mais c'est pas une devinette! Mais
c'est Mark Hamill!
Mais vous m'emmerdez avec Mark Hamill, je m'en vais!
Si on te dit fils de Dark Vador.
Oui, ben.
Et ben, c'est qui le fils de Dark Vador?
Mais je vous rappelle gentiment que je suis un culte.
Non, arrête. Non, mais sérieux. Non, mais me dis pas que c'est. Enfin, moi, l'idée de me foutre de la gueule des gens qui ont jamais vu Star Wars.
J'ai jamais vu Star Wars.
Quoi?
Arrêtez. Oh, les geeks.
Et oui, Mark Hamill, Skywalker, qui a tellement été marqué par le rôle que il a plus fait grand chose après.
Est-ce que c'est vraiment parce qu'il a été marqué par le rôle ou est-ce que. Non, je vais rien dire, je vais me fâcher avec des gens.
Oh non, si, vas-y.
Parce que c'est pas parce qu'il était, entre guillemets, bon que pour être Luke Skywalker.
Bah écoute, alors, dans le domaine du jeu vidéo, il a joué dans une série qui s'appelle Wing Commander, où c'était aussi un truc de SF, tu vois, avec des vaisseaux spatiaux. Sinon, Mark Hamill est aussi connu pour un autre rôle, mais dont il ne prête pas le visage.
C'est bien rapide. Mais
sachez une chose, c'est que quand on parle du Joker, on parle de Jack Nicholson et de Heath Ledger, mais faut aussi parler de Mark Hamill. Parce que dans la série animée de Batman des années 90, l'excellente série animée, c'est lui qui faisait la voix du Joker. Et il l'a tellement bien fait que depuis, il l'a refait dans d'autres itérations de Batman. Par exemple, dans Arkham Asylum ou dans Arkham City, le jeu qui va bientôt sortir, eh bien c'est lui qui fait en version originale. Ce qui veut donc dire que le Joker serait le fils de Dark Vador. Et alors, puisqu'on parle de Batman, on va parler de Superman, puisqu'en 1952, c'est Christopher Reeve qui l'essaie.
Alors, qui est Superman, Fab?
Oh non, ça je sais. Enfin...
Attends, tu connais Superman, mais tu connais pas Star Wars. Ah non, ça mérite.
Excuse-moi de te dire que Superman, c'est plus vieux, hein?
Oui.
Voilà, bah c'était mon seul argument, hein, donc démerdez-vous.
Oui, Christopher Reeve, dont on sait, il a fini la vie dans un fauteuil roulant, malheureusement, après une chute de cheval, je crois. Donc, qui a joué dans les 4 films des années 70-80 de Superman.
C'est joyeux.
Chose à dire sur...
Canu, le mec en fauteuil roulant, t'as pas des trucs plus joyeux?
Écoutez, si vous voulez quelque chose de plus drôle, de plus marrant, mais je sais pas si ça va vous égayer. En 1965, c'était la naissance de Anne Roumanoff.
Oh mon dieu,
la journée de merde.
Le même jour, mais ça n'a aucun rapport, enfin je l'espère, est né Scottie Pippen, le joueur de basketball des Bulls, parce que Michael Jordan ne faisait pas tout dans l'équipe des Bulls quand même.
Enfin, s'il était des Bulls, il était forcément en rouge, donc il y a un rapport avec Anne Roumanoff quand même.
Oui,
tu crois que c'est le fils d'Anne Roumanoff qui est la sœur Dark Vador.
Cousine par alliance du Joker.
À noter que c'est la journée mondiale du cœur. Alors je sais pas si c'est dans le sens ouais ayez du cœur, soyez gentil, ou si c'est l'organe, je ne sais pas, mais c'est la journée mondiale du cœur quand même. Et donc en F1 ce jour-là, alors ça aurait pu être le jour du deuxième titre de Vettel, mais ça n'est pas le cas. Mais deux titres sont tombés ce jour-là. En 2005 au Brésil, c'était le premier titre d'Alonso qui devenait le plus jeune champion du monde de l'histoire jusqu'à Vettel. Accessoirement, c'est aussi la dernière victoire de Juan Pablo Montoya. Et donc en 82, c'est le fameux titre de Rosberg, on se souvient, qui avait gagné avec une seule victoire. Ce 25 septembre 1982, c'était aussi le 100e Grand Prix de Williams. Et donc cette semaine, oh, ça va pas être très compliqué d'après toi, Dino.
Bah, c'est les 100e Grand Prix, non?
Alors ça va pas être le 100e Grand Prix.
Les écuries qui ont fait plus de 100 Grand Prix.
Ça va être les écuries qui ont fait plus de 100 Grand Prix. Il faut savoir que parmi toutes les équipes qui ont participé à la F1, il y a 25 équipes. J'ai presque envie de dire seulement, sur 60 ans, il y a que 25 équipes qui ont concouru plus de 100 Grands Prix. Alors forcément, je vais vous demander lesquels, et peut-être même, alors pas pour toutes, parce qu'il y en a certaines, je suis sûr que vous êtes impossibles à trouver, mais au moins peut-être les plus connues, si vous êtes capable de dire à peu près combien.
Mais c'est sous le même nom, ou ça peut avoir changé de nom? Genre par exemple, Tolman, qui serait devenu Benetton, qui serait devenu Renault.
Non, c'est quand ça a changé de nom.
D'accord.
Même si sur les comptes que j'ai fait, parce que j'ai pris les comptes sur StatF1, c'est vrai que par exemple sur Lotus et Renault, on pourrait par exemple enlever ou rajouter 34 courses, puisque c'est vrai que sur les deux dernières années, le cas de ces deux équipes sont un peu particuliers.
Bah, Ferrari...
Bah, forcément, c'est celle
forcément.
Qui en a... Forcément qu'il en a fait le plus, ça. Une idée du chiffre?
Bah, 851. Un peu moins, 840.
C'est moins, c'est 826.
Ouais, ils ont fait les 800 en Turquie l'an dernier.
Ouais, quand même.
Ça va.
Bah oui. Oui.
Ça pose les bases.
Ensuite.
Bah, Lotus, j'imagine.
Oui, Lotus. Alors, c'est pour ça que je disais, hein, moi j'ai pris le compte de StatF1, donc dans Lotus, il compte aussi donc les 33 de Team Lotus actuels. Une idée du chiffre, à peu près. Hein.
400.
c'est un peu plus. Alors, Stat F1 donne 524, mais si on considère que le Team Lotus actuel est complètement séparé, on serait dans ce cas-là plutôt dans les 490. Voilà.
D'accord. Oui, sachant que c'était quand même une époque où les grands prix comptaient beaucoup, enfin les saisons comptaient beaucoup moins de grands prix.
Oui, oui.
Donc c'est vrai que. Bah après, et... forcément McLaren.
McLaren était deuxième, hein, du classement. Une idée du nom, hein, ils ont commencé en 66. Ce qui fait quand même une différence, imaginez, hein, de 16 ans avec Ferrari. Combien ça peut représenter en...
720.
T'es plus proche, Fab, c'est 198. Vous m'avez trouvé la première, la deuxième et la quatrième.
Bah, Brabham. Non, c'est mon autre.
Brabham est sixième. Ils ont fait 394. Qui est troisième entre McLaren et Lotus?
Entre McLaren, bah, le Williams.
Bah oui, tout simplement, Williams.
Ah oui.
Les oubliés.
On les oublie?
Oui, on a tendance à beaucoup les oublier, ouais.
C'est pas vrai. L'année prochaine, on les oubliera pas. Enfin, peut-être pas.
Ira pas.
Oh, arrête. arrête. Par pitié.
Une idée du chiffre pour Williams?
720.
Bah non, et McLaren, c'est...
Bah non, 698. Mais réfléchis un peu.
Bah, de quoi? Mais McLaren, c'est 698. Moi, je dis 720. Il y en a un peu plus.
Non, ils sont troisième.
Bah non, il y en a moins.
Ah, ils sont troisième. Ah, c'est parce que c'est
650.
C'est
McLaren.
Non, 579.
J'étais pas loin.
Oui.
T'as une bonne centaine.
Donc là, vous avez fait les 6, vous manque le 5e entre Lotus et Brabham. C'est une équipe qui n'existe, mais plus sous ce nom.
Bah, Minardi?
Non.
Attends, t'as parlé de Brabham, c'est quoi le lien avec Brabham? Ah non,
Brabham, j'ai rien dit. Lotus est 4e du classement, 524, Brabham est 6e, 394, vous les avez nommés. C'est pour ça que j'ai dit, il manque le 5e, qui a fait 430 courses.
Bah c'est peut-être Red Bull, non?
Red Bull est 20e, 121 courses. C'est récent, Red Bull.
Et combien de victoires?
Oh non, il y a eu des vaches maigres.
Oui, au début.
Enfin, des canettes écrasées, comme on dit là-bas.
Celui que nous cherchons, qui est 5e, a 23 victoires.
23 victoires. Et ça existe encore aujourd'hui sous un autre nom?
La structure, on va dire, a beaucoup bougé, mais existe toujours sous un autre nom.
Ah, c'est Renault, non?
Ce n'est pas Renault. Renault est 9e, 295 points en comptant cette année, hein, Lotus Renault.
March
est 15e, 197.
Benetton?
Benetton est 11e, 260 courses.
Qu'est-ce qu'il y a comme écurie actuellement?
Ah oui, actuellement.
Attention, hein.
Ah oui, non, Mercedes, non.
Ah, non, mais Mercedes, ils ont rien fait comme grand.
Ah, Sauber!
Mercedes n'est pas dans le classement, ils n'ont fait
que 4. Ah oui, ils ont rien fait.
Non. Sauber est 13e, 229 courses.
Attends, on a fait
alors, des... que je vous donne un indice. Alors, ils ont changé de nom une fois, changé de nom une deuxième fois, changé de nom une troisième fois et une quatrième. Alors, Forcedia est 36e, ils sont pas dans le classement, ils ont fait que 68 courses.
On a tout fait.
Ils ont changé une première fois, c'était en 99. Puis en 2003-2004, si je me souviens bien, je me trompe peut-être à peu près sur les années, mais c'est dans ces eaux-là. En 2009...
Ah bah,
c'est
l'ancienne Stewart, non?
Non.
Ah, ça serait Red Bull.
Ah oui, c'est vrai, putain, oui.
C'est Renault, c'est Lotus Renault.
Non.
Tu m'as dit. Attends, Shinji, après, il n'y a plus d'autres écuries, Attends, on a tout dit, sauf une Lotus et Virgin.
Alors, avant Mercedes, il y avait quoi?
Avant
Honda, il y avait quoi?
Bar, Stewart.
Bar, 22e.
Merde.
Avant Bar.
Avant Bar,
il y a...
Putain, j'ai le nom.
Faut quand même savoir que cette émission est sponsorisée par généalogie.net.
Non, c'est merde. Je vois quel. J'ai le nom, ça bout la langue.
Ceux qui aiment mettre des bulles, quoi, dans les réservoirs.
Tyrell, oui, oh, mais.
Tyrell, 430. Vous avez du mal, Tyrell, hein, pourtant, enfin.
Oh, les Tyrell Yama. C'était ma jeunesse en Formule 1.
Oui, parce que c'est vrai que pour les plus jeunes d'entre vous, Tyrell est une équipe de merde, mais faut pas l'oublier, dans les années 70, c'était moins le cas.
Oui, voilà. Ouais. Enfin, ça a duré longtemps, Tyrell.
Ça a duré très longtemps. Bon, le problème, c'est que le jour où Jackie Stewart est parti, voilà. Alors, en 7e, c'est une écurie que vous avez déjà citée, c'est une écurie italienne.
Minardi,
340, qui ne suit pas très loin d'une autre équipe qui n'existe plus.
Cooper?
Benetton?
Alors, Cooper est 19e, 128 courses. Et Benetton, je l'ai déjà dit, ils sont 11e, 260.
Bah attends, on est à quelle place là déjà?
La 8e, sachant que vous en avez trouvé en dessous déjà. C'est une écurie française, je vous aide.
Ligier?
Et oui, Ligier est 8e, 326. Devant Renault, hein, donc on l'avait dit, un Renault 295. Alors dans le top 10, la dernière à fermer la marche, c'est celui qui n'existe plus, même si on l'a revu d'une façon indirecte en 2005-2006, ou plutôt on a revu ses châssis.
Ah, à Rose.
Arrose, qui a fait 291 courses quand même.
Ah ouais.
11e Benetton, ça on l'a dit, 260. 12e, on trouve là encore une structure qui existe encore, mais plus sous ce nom-là.
Attends, on a tweeté, Shinji. Force India.
Bah, celle qui était avant.
Jordan.
Jordan, ouais.
Jordan, 250 courses. En 13e, Sauber, je crois que vous l'avez déjà cité, hein.
Ouais.
229. Ouais. Alors, en 14e, là, on remonte à des équipes beaucoup, beaucoup plus vieilles, avec 197 courses, c'est-à-dire autant que March, mais plus ancienne encore.
BRM.
Bah ouais, BRM.
Ah bah bon.
Bien joué.
Alors, en 16e place, avec 149, il y a Lola. En 17e place, une équipe qu'on connaît bien, mais qui n'existe plus.
Toyota.
Toyota, exactement, ils ont fait 139 courses.
Ça n'existe plus.
Bah non, Toyota, non.
Ouais, France, étonnant.
Ça s'appelle Pirelli, maintenant.
Oui. Après, en 18e, on retrouve une équipe italienne qui doit être la comment dire, le rapport... Oh non, Forti, ils n'en ont pas fait autant. Mais c'est ce genre d'idée, c'est une équipe bien de merde, mais qui a duré très longtemps.
Scuderia Italia.
Non, ils ont marqué 5 points en 132 Grands Prix dans les années 80.
Oui, en effet.
Ah, il faut avoir du courage, hein. Et dire qu'ils se plaignaient chez Toyota. Hein.
Martini.
Osella, Osella.
Ah, peut-être Osella.
Ouais. Osella, ouais. Ah, ouais. Donc 19 Cooper, hein, 128 courses, ça on l'a dit. 20e, donc Red Bull, 121. En 21e place, on trouve une vieille équipe, elle aussi, qui a pas eu beaucoup de succès. Malgré son nom, c'est un peu... c'est dans la veine des Brabham, des...
Surtees,
exactement, qui a quand même fait 118 Grands Prix.
Ah la vache.
Meilleur résultat, 5e en 1972 quand même. Alors, en 22e place, il y a Barr, qui quand même en son nom propre en a fait 117. Mais c'est vrai que là, on commence à être à des époques où les saisons sont plus longues. En 23e, il y a encore une écurie italienne.
Forti?
Pas Forti, non, un truc plus prestigieux quand même.
Maserati? Alfa Romeo?
Alfa Romeo, ouais. Ah, ouais. 110 courses, donc entre 79 et 85. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est des voitures qui étaient aussi sponsorisées par Marlboro. Voilà, elles ressemblaient comme deux gouttes d'eau à McLaren. Ouais. Donc on arrive là, à la fin du classement. Alors, 24e place, une équipe, alors elle est quoi? Elle est américaine.
Eagle?
Elle a duré, non, elle a duré 104 Grands Prix de 73 à 1980. Et qui a une victoire.
Américaine? Ah bah, c'est pas, pas Penske?
Non, pas Penske.
Curtis Craft?
Mais en même temps, j'ai envie de dire, vu son nom, c'est peut-être normal qu'elle soit mal connue, cette équipe.
Shadow.
Shadow. Oui. L'écurie Shadow, quand même 104. En 25e place. D'ailleurs, Shadow va perdre sa place de 24e, puisqu'en 25e, il y a une équipe qu'on connaît bien qui va la dépasser.
Toro Rosso.
Toro Rosso, qui est à 103. Et donc, c'est la dernière équipe à plus de 100. Puisqu'ensuite, en 26e, c'est Ensign, qui est à 99 et qui restera bloqué à 99.
Ah, ne dis pas ça.
Oui.
Oui, c'est vrai. Donc, à noter, hein, parmi ceux qui courent, hein, donc Force India est à 68, Mercedes à 45, Virgin à 33, HRT à 32. Et à noter qu'en fin fond de classement, on trouve quand même une vingtaine d'équipes qui n'ont fait qu'une course. Donc, ça va de Snowberger, hein, à Andrea Buda. Voilà. Et là, quand tu commences à piocher là-dedans, c'est là que tu pioches vraiment dans l'histoire obscure de la F1. Hein.
Ah ouais. Les bas-fonds, tu sais.
C'est vraiment les bas-fonds. Donc voilà, c'était pour l'éphéméride. Finalement, il n'y a pas tant d'équipes, ça, on dépassait les 100, qui est quand même un chiffre qui n'est pas anodin.
Bah, ça prouve et que ben... la F1, c'est toujours quand même une aventure, et pour se lancer dedans, et pour durer surtout, oui. même à petit niveau, il faut que ça suive derrière.
Des ordres d'idées, hein. BMW Sauber, c'est 89, Honda 88, Jaguar 85, Prost 83, hein. Des équipes qui ont duré quand même quelques années. Stewart 49.
Qui a duré moins longtemps, mais qui a été beaucoup plus brillant.
Ouais.
Oui. Et Brown 17.
Oui, alors qui a clairement duré moins longtemps.
Oui, ils ont le ratio d'efficacité le plus dingue de toute l'histoire de la F1.
En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il ne peut pas venir en Formule 1 pour s'inscrire sur le long terme. Il faut venir pour s'inscrire dans le court terme.
C'est clair.
Alors, Dino, maintenant, on va passer à l'actu.
Oui. Et au podium de l'actu.
Ouais.
Non, au top 10 de l'actu, s'il te plaît.
Non. C'est pour ça que je suis venu, moi.
Non, c'est pas un top 10, c'est un podium, je dis.
Non.
D'accord, ouais. Donc au top 8 de l'actu.
Non, c'est un podium, je dis.
D'accord, donc le top 5 de l'actu.
Un tripodium.
Non, quand même, je dis, n'exagérons pas.
D'accord, donc le top 4 de l'actu.
Non, un peu mieux.
Non, sérieux, il n'y a que 3?
Non, il y en a 6.
Ah bah oui.
Et donc, nous allons commencer avec la 6e position. Un article que j'ai presque lu.
C'est déjà mieux. Déjà, c'est beaucoup mieux par rapport à la semaine dernière.
Non, parce que j'ai lu la version anglaise. Donc, voilà, non, mais faut être honnête, quand on est rédacteur sur un site de Formule 1, on se lit très peu entre nous.
Pas vrai.
Ah bon?
Moi, je lis tous les articles, monsieur. Même les tiens, qui sont super longs.
Non, mais c'est vrai que généralement, comme on est sur les sources anglaises, quand on voit un article en français, on n'a pas forcément envie de le relire, puisque généralement, on l'a déjà lu. Et donc, c'est un article qui s'intitulait « Schumacher et Alonso espèrent une saison 2012 plus difficile pour Sébastien Vettel ».
Tu m'étonnes.
En même temps, c'est vrai que...
Je pense qu'ils sont plusieurs.
J'imagine mal Alonso dire « Moi, j'aimerais bien qu'il soit titré dès le mois de juillet ». D'ailleurs, j'ai dit à Ferrari, les gars, oh, doucement, le développement, on ralentit, d'accord. On commencera en mars.
Non, mais déjà, il faut vaincre le cylindre chez Ferrari. Remettez un nom d'anniversaire, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais les noms d'anniversaire pour les voitures chez Ferrari, la F60, souvenir impérissable. Oui. La F-150, souvenir impérissable. Dès qu'ils sortent du truc de l'année, c'est un peu, tu vois, genre la
F-2003 GA.
Voilà. Ils ont gagné, mais ça a été compliqué.
Non, je sais pas, vous êtes comme eux? Vous espérez une année 2012 plus difficile pour Vettel? Moi, c'est pas parce que moi, je suis pas d'accord.
Ou plus facile pour les autres, hein, c'est plus,
ouais,
choix.
Voilà.
J'ai pas de préférence, quoi.
Bon, si on se projette, alors c'est un exercice, voilà, c'est l'exercice à la con. Mais si on se projette sur 2012, quelle hiérarchie voyez-vous se dessiner? Est-ce que vous pensez que Red Bull va continuer sur sa lancée, que Mercedes va revenir, que Ferrari, McLaren vont enfin prendre quelque chose de potable?
Je pense qu'il faut être optimiste. Parce que tu dis ça, après il faut expliquer après, parce que ça peut être dans n'importe quel. Mais c'est vrai que le règlement 2012 sera quasiment le même que 2011. Donc on va rester sur les acquis de 2012. Bon, vous allez me dire, bon, c'est mal barré dans ce cas-là. Non, oui. il y aura quand même un resserrement, notamment sur Ferrari, McLaren et Red Bull. Après Mercedes, je sais pas, parce que quand Brohl lui-même dit qu'il va pas jouer la victoire pour 2012 six mois avant.
Mais moi, je me demande quand même ce qui se passe chez McLaren. Parce que c'est Mercedes, pardon. Parce que sans être méchant, ça, je crois que ça fait quand même deux saisons qu'ils arrêtent assez tôt le développement de la voiture de l'année pour se concentrer sur celle de la voiture d'après. C'est quand même inquiétant, hein, au bout d'un moment.
Mais je pense surtout c'est qu'il y a un rapport qui est totalement différent entre des écuries déjà qui sont bien implantées, même Red Bull, hein, et qui mettent des moyens colossaux.
Quand on y pense par rapport à d'autres cas comme ça d'équipes qui ont été rachetées, les débuts sont... Enfin, comprends justement, par exemple, Red Bull, quand ils ont pris Jaguar, les débuts étaient pas du pareil. C'est quand même
plus
positif que, voilà.
C'est ça aussi, je pense que il y a une dichotomie entre le nom Mercedes et la réalité de l'équipe, qui est une équipe quand même qui est, en termes de moyens, qui est derrière les trois équipes du championnat. C'est vrai que Mercedes, ils sont arrivés tout de suite en faisant beaucoup de com, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient énormément investi
et
dans leur équipe.
Ils se sont placés tout de suite comme une top team, hein.
Voilà, non, c'est ça, c'est que on n'a pas c'est non vrai. Plus l'impression qu'ils se sont investis dès le départ pour faire évoluer la voiture. Quand, comme tu disais tout à l'heure, Fab, l'an dernier, quand même, ils arrêtent assez tôt le développement et on voit ce que donne la W02. Là, ils nous promettent la même chose pour l'année prochaine. On est forcément dubitatif. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements qui vont être pris. Il y a engagement de personnel. Il y a.
S'ils donnent les moyens, ça peut marcher.
Après, ils ont les pilotes pour. Hein, sincèrement, ils ont Rosberg, ils ont Schumacher, ils ont les pilotes pour. Moi, j'attends vraiment de voir. C'est-à-dire que c'est même pas une équipe où je veux m'engager. Je vais juste simplement attendre de voir parce que c'est quand même une équipe qui. C'est quand même des mecs qui savent faire des voitures qui gagnent. On l'a vu l'an dernier. Voilà, c'est quand même en face. Il y a des écuries qui n'hésitent pas à mettre moyens, quoi. Que ce soit McLaren, que ce soit Ferrari ou Red Bull, eux, s'il faut sortir de l'argent, ils le sortent. Là où Mercedes, il y a quand même un board à voir, il faut négocier, compagnie, c'est super dur à bouger, mais c'est le problème des constructeurs. Finalement, Mercedes ne fait ni mieux ni moins bien que BMW ou que Toyota.
Ouais, non, mais c'est sûr, mais après, c'est vrai que c'est quand même assez peu encourageant de se dire que cette écurie-là laisse tomber assez rapidement ses voitures, se concentre sur le véhicule. Qui ne progresse pas durant l'année pratiquement. Enfin,
non.
C'est des progrès très très sporadiques. Là, on vient voir quelques progrès sur plusieurs courses.
Bah, Mercedes a plus progressé parce que c'est pas tant Mercedes qui a progressé, c'est l'RGP qui s'est un peu cassé la gueule.
Là, mais tu regardes derrière, il y a qui ? Il y a Force India, parce que là, les Mercedes sont encadrés par Force India, donc
voilà.
Tu sais pas, en fait, on sait jamais.
Mais je pense aussi qu'il y a un tort chez Mercedes, c'est justement, je pense que c'est aussi risqué d'arrêter le développement trop tôt, parce que du coup, c'est quand tu arrêtes trop tôt, c'est vraiment que ta voiture est pas bonne et tu repars sur quelque chose de totalement différent. Donc du coup, bah tu repars d'une feuille blanche, là où en face, Red Bull, bah ils ont fait que peaufiner la RB6 en reprenant le principe de la RB5.
Les problèmes de Ferrari, ça a beaucoup été les pneus. Faut se rappeler que ça avait aussi été le cas en 2003, non 2005.
2005.
Mmh, 2005, c'est ça. Voilà, 2005. mais que après, enfin, c'est pas nouveau que Ferrari ait du mal à s'adapter à des nouveaux pneus, mais en général, ça ne dure qu'une année.
Oui, oui.
Voilà. La mauvaise année, elle est en train de passer. Peut-être que l'an prochain, s'ils ont bien, sans doute, ils ont beaucoup mieux analysé justement le comportement des pneus, ça sera beaucoup mieux.
Et moi, l'an prochain, malheureusement, je revois Red Bull.
Ouais, pareil.
Ah, il y a une sérénité quand même chez Red Bull, hein, c'est clair.
Souvent, on a dit que ce qui plaidait pour les écuries historiques, c'était leur capacité de développement. Et c'est vrai qu'on voit quand même depuis deux ans, alors qu'on s'attendait quand même à ce que Ferrari et McLaren fondent sur Red Bull, voire la dépassent assez rapidement, justement parce que c'est des écuries qui développent énormément et qui ont une force de frappe incroyable. Bah, finalement, ils sont toujours derrière Red Bull. Et moi, je pense sincèrement que l'année prochaine, la RB8 sera encore une très bonne voiture. C'est eux qui ont le mieux anticiper tous les différents effets du DRS, de Pirelli, etc. Ils ont tout compris de la course. C'est là aussi qui
plus une sérénité quoi. Absolue au niveau des pilotes. Voilà.
Oui. Enfin, d'un pilote.
Ouais, ouais au niveau mais, d'un pilote, hein, mais ça suffit.
Mais non, mais t'enlèves les départs, puis c'est bon.
Oui, grosso modo, c'est ce que nous a dit Weber. Si tu retires ses départs, bon, on ouais. peut considérer qu'il c'est... est champion.
Ouais. Alors, on va peut-être passer à la cinquième actu dans ce cas.
Oui, alors la cinquième actu qui est une actu qui, moi-même, son classement m'étonne.
Ah.
Puisque c'est une actu qui a été postée cet après-midi ou
ah
non,
oui,
cet après-midi.
Stewart.
C'est ah. Stewart qui ouais. déclare Hamilton doit réfléchir à sa gestion mentale. Voilà, il dit il a trop d'accidents. Les grands pilotes en avaient beaucoup moins que lui.
Ah oui.
Et c'est pas pour lui pour le moment le style de Lewis n'est pas le style d'un grand pilote. Moi personnellement je suis 100% d'accord avec lui.
Tout à fait. Il y en a aussi qui soulignent peut-être son entourage. Faut pas oublier que son père n'est plus son manager. Qu'en fait, il a pas un manager au sens classique. En fait, c'est une société qui le manage. Et je sais plus où j'ai lu que justement, bah, je crois que c'est son père qui disait, voilà, il a pas une personne qui est tout le temps avec lui, qui est là pour lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus un promoteur de ses intérêts, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a personne qui est là pour dire, arrête, Lewis.
Ah, mais c'est ça, c'est ce que dit son père. Il dit que justement, la gestion par le manager d'un pilote de Formule 1. C'est très particulier parce que c'est quelqu'un qui doit être dans l'entourage, qui doit un petit peu finalement lui aussi connaître la pression d'un pilote de Formule 1 de tous les jours, quoi, tout au long d'un week-end, tout au long d'une saison. Et ce qu'il dit, on peut pas faire ça avec des personnes qui vont se relayer dans une année.
Voilà.
D'ailleurs, lui, il le fait très bien en étant lui le manager Anthony Hamilton de Paul Di Resta. Ouais. Très bon.
Il fait
très
plutôt
bon
bien.
Ouais. Très bon manager. Ouais. Et voilà. Mais sinon après. Sur ce qu'a dit Stewart, c'est un peu ce que dit ce matin Prost dans l'équipe, qui dit que justement Lewis c'est un pilote avec un grand talent, mais qui le gâche à conduire de la manière dont il fait. Et justement, il rejoint donc cette idée du fait qu'il doit être raisonné par quelqu'un.
C'est vrai que bon, on va y revenir forcément, mais quand c'est arrivé, moi je sais que la première chose que je me dis, c'est que je me dis mais est-ce qu'il écoute ce qu'on lui dit? C'est la première réflexion que je me suis faite.
Mais c'est ce qu'a dit Massa hier. Il a dit on a beau le pénaliser, il s'en rend même pas compte quoi. Il tire même pas les leçons. C'est vrai que je sais que c'est une phrase qui énerve Fab, mais c'est vrai que malheureusement c'est encore un incident où est impliqué Hamilton. Sans faire de jugement sur la responsabilité, mais c'est encore un incident.
Cette phrase là me va très bien. Un incident où est appliqué Hamilton. Ça, moi, j'ai aucun problème. Et de toute façon, les faits sont clairs.
Oui.
Je ne vais pas nier. C'est pas parce que j'aime Hamilton que je ne vais pas nier qu'il a une responsabilité. Enfin, il est en tout cas impliqué dans beaucoup d'incidents, beaucoup plus que d'autres pilotes. En même temps, la plupart du temps, il est sanctionné pour ce qu'il fait. Mais comme tu allais le dire, et je vais te laisser finir, il n'en tire pas les conséquences.
Voilà, c'est vrai que quand on réfléchit aux managers, la Formule 1, c'est quand même l'un des rares sports où on connaît, où on est capable de citer des noms de 3, 4, 5 managers. On est sans doute un peu déformé parce que c'est vrai qu'on suit la Formule 1 un peu plus proche que n'importe qui, mais des gens comme Nicolas Todd, comme Robertson, comme
Lee
Weber, comme
Briator
à l'époque, comme effectivement le père de Lewis Hamilton, c'est des gens qu'on connaît parce que c'est des gens qu'on voit régulièrement dans le paddock. Vraiment, les managers en Formule 1, ils ont plus un rôle de coach, quasiment de coach personnel. Et ce qui est gênant avec Lewis, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est plus un agent de communication, qui est chargé de gérer l'image de Lewis Hamilton.
Ben c'est ça le problème, c'est que c'est vrai qu'en début de saison, justement, quand il s'était lié à cette société de management, il y avait beaucoup de langues se sont déliées en disant qu'il privilégiait, en faisant ça, à la limite, il privilégiait plus l'après F1 que le pendant, en fait. Et c'est vrai que c'est un problème, parce que force est de constater quand même que depuis qu'il a plus son père comme agent, c'est-à-dire depuis l'année dernière, depuis le début de l'année dernière, avant le début de l'année dernière, il multiplie quand même les erreurs, ou en tout cas, il multiplie les problèmes.
Bon, après, je pense aussi qu'il y a un côté frustration aussi, enfin, on le sent bien dans les déclarations qu'il a eu sur Barrichello, où ça a été un peu mal interprété, je trouve, mais c'est vrai qu'il dit sur Barrichello, Barrichello, c'est quelqu'un qui est content d'être là, qui est content d'être en Formule 1, sans se battre pour le titre, moi, je veux être le meilleur. Et c'est vrai qu'on sent qu'il a vraiment une frustration sur la situation actuelle, ça fait 3 ans qu'il a plus de titre, que c'est quelqu'un qui a quand même été élevé comme un champion, qu'il est convaincu de pouvoir faire aussi bien que Senna, il n'a pas arrêté de le dire tout le temps, et il en a sincèrement le potentiel. Il y a toute une dynamique, en fait, qui s'est jouée contre lui.
Oui, mais c'est ça, mais c'est ce qu'on disait, il me semble, en tout début d'année au SAV d'Australie, c'est que c'est un pilote qui est arrivé en F1 par la grande porte, une écurie qui était capable, oui, de jouer le titre pendant 2 saisons d'affilée, qui aurait pu le porter déjà à 2 titres d'affilée, et qui, en 2009, avec tout ce qui s'est passé, le changement de réglementation, tout ça, s'est écroulé, a mis du temps pour revenir à un niveau acceptable, mais aujourd'hui, lui fournit pas la voiture qui va lui permettre de remporter des victoires régulièrement, de se battre régulièrement pour la victoire. Et ce qu'on disait par rapport au fait qu'il pouvait très bien, pourquoi pas envisager d'aller chez Red Bull, à une de son problème, moi j'ai presque envie de dire, il faudrait peut-être qu'il envisage de partir, même si, d'après ses dernières déclarations, c'est pas vraiment ce qu'il veut faire, mais peut-être que dans sa tête, changer d'écurie, ça serait peut-être renouer finalement avec une ambition qu'il serait capable d'assouvir, et ça lui remettrait peut-être les idées en place, ça lui éviterait peut-être d'avoir cette épée de Damoclès toujours au-dessus de la tête. Peut-être dire qu'il va finir sa carrière, si ça continue comme ça, qu'avec un seul titre, parce que je pense que c'est sa grande hantise, quoi, finalement. Comme tu disais, il s'identifie beaucoup à Senna, et le problème, c'est que, bon, même s'il est très en avance par rapport à Senna du fait de l'âge, mais le problème, c'est qu'il se voit, il se sent pas tout de suite, là, la possibilité d'être à nouveau champion.
Non, mais c'est vrai qu'en plus, à Hamilton, il y a un côté couper le cordon, quoi, peut-être, comme de la même façon qu'il n'a plus son père, peut-être qu'en effet, même pour lui, ça sera mieux un jour de quitter McLaren. Alors sur ce, passons peut-être à la 4e actu, Dino.
Et donc oui, Shinji, nous en passons à la 4e actu, et une actu qui parle, c'est étonnant, de Michael Schumacher.
Non.
C'est, va falloir vous habituer. Hein, apparemment, il y en a certains qui sont décidés à mettre du Schumacher à toutes les sauces. Et là, c'est un article qui s'appelle « Michael Schumacher en sens Jenson Button » et qui se classe 4e, donc. Alors, je ne l'ai pas lu. Donc, Fab, toi qui lis tous les articles de Fan F1.
Bah oui.
Hein oui.
Fallait pas ouvrir ta gueule.
Il est possible que parfois, dans le tumulte, certains articles m'échappent. Non, mais oui, enfin, si, j'ai lu les déclarations vaguement. Moi, ce qui m'avait fait rire, c'est qu'elles sont tombées à peu près le jour où Button a assassiné Schumacher sur sa façon de conduire à Monza. Donc, ça m'avait beaucoup fait rire.
Je me demande si c'est pas d'ailleurs justement volontaire de la part de Schumacher.
Ben je sais pas, je m'en rappelle plus.
Parce que c'est quand même tombé bien après, parce que déjà dès le dimanche soir, ça a commencé à tomber sur Schumacher, et elles arrivent, je crois quasiment le lundi, ces déclarations. Donc peut-être qu'il s'est dit, moi il m'enfonce la tête dans l'eau, moi je vais le valoriser, je vais passer par le mec bien, quoi. En tout cas, moi c'est un truc que je fais, Si c'est un truc que je fais, Schumacher peut le faire.
Oui. On y reviendra plus tard sur Button, je pense.
Oui. Non, mais il disait quoi exactement sur Button?
Des trucs très positifs.
Bon, alors, troisième actu peut-être, Shinji. Oui, donc troisième actu, merci Shinji. Alors, là, je sais que la troisième, vous allez parler. Ah. Puisque c'est un article qui, allez, je vais vous faire deviner, c'est BIP en visite chez BIP.
Ah oui.
Allez, devinez.
Non.
Donc alors,
moi je laisse ce plaisir à
Mais on pense que peut-être, oui, il y aurait des options entre BIP et BIP, même si techniquement il n'a pas le profil pour aller chez BIP, puisqu'ils veulent beaucoup plus de BIP, alors que lui, il coûtera beaucoup de BIP.
Shinji est parti en live.
C'est quoi? C'est juste pour dire que Kimi, il est allé voir chez Williams la Jaguar, que tout le monde dit, ah, il est venu pour discuter, alors que techniquement, il a en fait le profil complètement inverse de ce que chercherait Williams.
Attends, Shinji. Je tiens quand même à remettre à plat tous les scénarios possibles. Oui. Sincèrement, toi qui es fan de Kimi Raikkonen, on te dit, il est allé chez Williams. Petit A, tu penses qu'il est allé chez Williams parce que il veut un baquet en 2012, ou peux-tu bé, tu penses qu'il est allé chez Williams pour voir la nouvelle Jaguar hybride?
Mais non, mais je veux que ça soit pour le baquet 2012.
Oui, mais sincèrement, est-ce que tu veux que Raikkonen allait chez Williams pour aller voir une voiture hybride?
Mais il en est capable, c'est ça le pire.
Mais on parle de Kimi Raikkonen. Non, mais ça détruirait un mythe, Kimi Raikkonen qui roule en hybride, même si c'est une Jaguar, mais quand même.
Oui, c'est une Jaguar.
Ça vaut mieux que Kimi Raikkonen roule en Prius, d'accord, mais quand même. Oui. Bon, à savoir que son manager a démenti aujourd'hui.
Oui, enfin, en même temps, il disait aussi qu'il n'y avait rien avec Renault, et puis bon, voilà. Hein, on sait comment ça marche. Il n'y a rien tant que c'est pas si sur tout ça.
Ouais. Non, mais il disait aussi qu'il ferait deux rallyes extra-européens. Et puis...
Oui. Pourquoi ils l'ont exclu? Enfin, pas lui, mais son équipe, c'est dégueulasse.
Non, mais c'est parce qu'en fait, il s'est engagé au début.
Non, mais je sais pourquoi. Mais oui, je non, me plains
faut...
quand même.
Non, mais faut expliquer quand même aux auditeurs.
Oui, il faut expliquer.
Vas-y, explique-leur.
Bah, en fait, il s'était engagé à faire deux rallyes extra-européens. Donc, il a fait le premier, et puis le deuxième, il a fait non. Donc, il y est pas allé.
Ah, Shinji, attends, excuse-moi de t'interrompre.
Oui.
Je crois que nous avons Fabien en direct qui va nous donner les déclarations de Jenson Button, de Schumacher sur Jenson Button.
Oui, oh oui, 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 tout à fait.
Alors, Fabien, quelles sont les déclarations que tu as pu aller retrouver au fin fond du site fanf1.com? Quelles sont les déclarations de Schumacher sur Jenson Button?
Ben, écoutez, j'ai un peu posé des déclarations qui vont faire du bruit. Il a dit, même s'il est peut-être de 2% inférieur à son meilleur niveau, il reste un talent phénoménal. Et là, il va plus loin dans l'analyse. S'il est dans la bonne voiture, il peut certainement encore se battre pour le championnat.
C'est une bombe. Je pense que nous allons pouvoir revenir plus tard sur cette information. Mais immédiatement, revenons en plateau avec toi, Shinji. Donc, tu nous parlais de Kimi Raikkonen. moi, je pense que Kimi Raikkonen, en fait, si tu veux, par rapport à l'indice de coefficient 27 qui se trouve au paragraphe 4 du rapport de Schengen, je pense effectivement que Kimi Raikkonen a une propension verticale en triple dimension pour pouvoir aller chez Williams, mais j'ai des doutes sur Williams en fait, parce que je pense que le marché est fébrile en ce moment.
Répondez.
C'est un peu ça le problème, c'est que Kimi c'est quand même le pilote qui risque de foutre sur la paille Williams.
Maldonado payera plus cher.
Il risque de foutre sur la paille le Venezuela.
Oui. La troisième guerre mondiale à cause de Kimi Raikkonen.
Non mais sinon ça serait top. Alors, déjà en plus ça va être Williams, Renault et tout. Si en plus qu'il y avait Kimi, ça serait waouh.
Mais surtout, est-ce que ça serait pas vraiment un énorme désaveu de la part de Kimi Raikkonen que de revenir dans une écurie qui sincèrement ne jouera pas la gagne, ne jouera peut-être même que très rarement.
Alors l'hypothèse qui commence à circuler, c'est qu'en fait, il reviendrait par la porte de Williams
pour aller chez Ferrari en 2013.
Peut-être pas Ferrari, mais c'est vrai que normalement, en 2013, il va y avoir beaucoup de changements au niveau des baquets, voilà. Et donc, il se dit peut-être, voilà. Donc, en fait, Williams serait une porte de rentrée. En même temps, ils virent souvent les gens chez Williams, donc.
Ouais, mais ils le vireront que s'il a un titre.
Oui, c'est vrai.
Ils réfléchissent bien.
Parce qu'il peut s'engager sur le long terme.
Il peut rester longtemps.
Regarde Maldonado, il le garde. Et tout le monde dit que c'est à cause de l'argent. Non, c'est juste parce qu'il n'a pas été titré.
Dès qu'il a son titre, il se barre.
Dès qu'il se trompe, hein. Hülkenberg, il n'a pas eu de titre.
C'est pas pareil.
Il a fait une pole. Il a fait une pole.
Voilà, c'est quasiment une
victoire. Qui équivaut à un titre.
Voilà.
Et là, t'imagines, l'année prochaine, Kimi revient, il est champion du monde. On passe à la deuxième actu déjà, mais
oui.
C'est une actu qui reparle de Schumacher.
Ah, tu nous avais prévenu.
Petite idée sur la question.
C'est une déclaration de David Coulthard qui a dit donc on a vu du Schumacher classique en référence bien évidemment au Grand Prix d'Italie à Monza.
Mais c'était positif dans sa bouche.
Oui.
Oui oui. Oui, c'est vrai que parfois
Mais parce que c'est le Schumacher classique, il y a deux versions.
Ouais.
Non, il y en a qu'une, je suis désolé.
Ouais, ouais.
C'est juste que vous voyez tout mal. S'il a plus le droit de se garer sur un parking parce qu'il est fatigué. Ah, ouais. Bon, c'est tout. Je sais pas, vous avez quelque chose à dire?
Bah non, on a déjà assez dit qu'il avait fait un très bon Grand Prix d'Italie. Voilà, donc on dit, ouais, il a fait une course géniale. Ouais, voilà.
Bon, bah on passe au premier alors.
Oui, voilà.
Qui parle encore du Grand Prix d'Italie.
Quelle surprise.
Puisque c'est Vettel qui a attiré l'attention des commissaires sur la manœuvre d'Alonso en fin de course.
Ah, il a pas parlé de Schumacher, lui.
Non, bizarre. Change.
Non, mais bon, je vais en profiter pour revenir parce que sur cette question du Grand Prix d'Italie et des commissaires, parce que on a appris plus tard dans le dans la semaine après le Grand Prix, donc.
Ah si.
Non, faut quand même en... faut quand même en parler.
Non, parce que c'est intéressant de le savoir. T'as juré sur la tête de Bûcher.
Ah bon? C'est faux. Tu dis n'importe quoi. Putain, ça c'est une défense. Non mais parce que bon, il y a eu cet épisode de Vettel qui aurait soi-disant été voir les commissaires, ce qu'il semble avoir plus ou moins démenti. Même si il circule beaucoup de choses sur ce qui s'est passé entre Vettel et Alonso après la course, mais il y a eu un autre épisode qui s'est passé durant ce Grand Prix qui avait trait aussi au commissaire et au fait que la manœuvre entre Schumacher et Hamilton qui est ce qu'elle est n'a pas pu être jugée par les commissaires. Alors on se dit parce que personne n'a finalement alerté les commissaires. Non, c'est pire que ça. C'est parce qu'au moment où se déroule cette manœuvre, ils sont en train de regarder un incident essentiel entre Trulli et Massa. Et l'explication de Derek Daly, qui était le quatrième commissaire, donc le commissaire représentant des pilotes, c'est de dire que bah oui, bah, du coup, comme ils étaient en train de regarder ça, ils n'ont pas pu analyser l'incident entre Schumacher et Hamilton. Mais il se trouve qu'ils ont une régie qui est même pas une régie, quoi. C'est un magasin de télé, leur truc.
Ouais, non,
ils ont 40 écrans pointés sur différents endroits du circuit. Ils ont, comme c'est marqué dans l'article, un logiciel qui leur sert par détection satellite à lister en fait automatiquement tous les endroits, tous les points sur lesquels pourrait y avoir des litiges. Et en cliquant sur simple liste, sur cette liste, sur un élément de cette liste, ils peuvent revoir les images en question. Donc on est quand même
c'est
devant
la CIA, la FIA en fait.
Non mais c'est ça. Ouais. On est quand même devant un dispositif faramineux, des possibilités mais infinies de revoir les images. Et le mec il vient de dire bah ouais mais on regardait autre chose en même temps. On pouvait pas l'analyser. Alors voilà, moi c'est pas, je veux dire, j'étais pas personnellement, je suis pas vraiment, enfin voilà, pour moi c'était une belle défense de Schumacher, viril mais correct. Mais franchement, moi, j'accepte pas. Bon, c'est vrai que je me suis un peu, ça m'énerve un peu beaucoup pour ce que c'est. Mais moi, j'accepte pas que, enfin, qu'on ne puisse pas justement le juger parce que justement, on revoit pas les images, quoi. Mais c'est une explication, mais c'est à chier, quoi. Je veux dire. Moi, ça m'a foutu hors de moi, quoi. Et comment ça peut leur échapper en plus? Je veux dire, c'est le truc, ça échappe à personne.
Mais non, ça pose aussi.
Ça peut échapper aux réalisateurs, hein.
Ça bah oui, mais c'est non ça. Mais c'est ça surtout, c'est que c'est quand même un truc, c'est une bataille de 30 tours où on a quasiment vu que ça, même nous sur la piste, sincèrement, on ne regardait que ça, et eux ils regardent autre chose. Alors c'est vrai que bon, c'est le boulot de commissaire, ils sont parfois obligés de regarder autre chose, mais surtout ce qui est grave, c'est qu'on a l'impression que c'est que le quatrième commissaire finalement ne sert à rien, parce que il peut simplement ne pas être amené à décider juste parce qu'on ne lui montre pas les images.
Puis en plus c'est pas comme si tout au long de cette bataille là on n'avait pas eu des communications radio qui montraient justement que la FIA avait été prévenue par McLaren et que en plus la FIA avait demandé à Mercedes de faire attention, quoi. Moi je comprends pas, j'avoue je comprends pas.
On va passer aux citations.
Ah, vu qu'on parle de McLaren, je vais peut-être commencer moi.
Bah vas-y.
Puisque
vas-y.
C'est une déclaration de Livio Auricchio.
Ce bon vieux Livio.
Bien sûr.
Qui est un journaliste brésilien qui a déclaré, moi j'aime beaucoup cette phrase, pour plusieurs raisons. Button est intéressé par Ferrari et Ferrari s'intéresse à lui. Parce que ça a été l'une des autres
rumeurs
qui a fait rire notamment Jenson Button. C'est effectivement le fait que Button ne voudrait prolonger son contrat avec McLaren que pour 2012 afin de mieux rejoindre Ferrari en 2013, qui a potentiellement des conséquences assez terribles pour Button, c'est-à-dire que s'il ne prolonge pas pour 2012, il est à pied en 2012. Et s'il prolonge, ça sera pour au-delà de 2012 quand même. Donc quoi qu'il arrive, il est coincé. C'est soit il est sans volant en 2012, mais il est chez Ferrari en 2013, ou alors il est chez McLaren en 2012, mais il sera pas chez Ferrari en 2013.
Ouais. On met beaucoup de monde dans le bac chez Ferrari en 2013. Hein.
Oui. Surtout que Domenicali n'a plus caché qu'il a fait une déclaration ce week-end, je crois, que maintenant il écartait pas la possibilité de mettre quelqu'un d'autre dans le baquet de Massa.
Là, ça serait bien que Massa revienne dans son baquet.
Oui.
Non mais c'est impressionnant parce que bon, c'est vrai que les transferts cette année vont être calmes, faut le dire. Hein. Les top teams ont tout verrouillé. Finalement, les deux clés, enfin, même l'une est dépendante de l'autre. C'est forcément le cas Kubica. Et par extension, le deuxième baquet Williams. Et puis peut-être aussi le deuxième baquet Fidia.
Pas trop le deuxième baquet, c'est surtout Sutil qui va se retrouver sur le marché. Bon,
ça, oui, voilà, Sutil. Ouais.
Maintenant, c'est quasiment acquis. Hein.
Mais voilà, à part ces trois places-là, finalement, 2012, ça va être très calme. Et c'est vrai qu'on commence déjà à parler de 2013.
Mais c'est justement ce qui est intéressant, c'est que moi je me rappelle avoir commencé un article comme ça en disant la Formule 1 déteste le vide, donc elle essaie de créer des choses, c'est de là que viennent les rumeurs, et c'est là que comme la saison 2012 est pas forcément très intéressante niveau transfert, on est déjà en train de regarder sur 2013.
Sinon Fab, as-tu une citation ? Moi j'en ai deux.
Eh ben tu choisis.
Ouais, attends, il y a plein de fois où t'en as donné deux.
Non, j'en ai donné qu'une. Et une fois, j'en ai donné deux, après...
Ouais, moi aussi, j'en ai donné deux, une fois.
Voilà.
Donc ça fait 50%.
Non, il y en a une autre, c'est pas une citation sérieuse, j'ai presque honte, d'ailleurs.
Oh, je crains le pire.
Vous voulez la sérieuse ou la pas sérieuse, d'abord?
Ah, la pas sérieuse.
Ah non, la sérieuse, d'abord.
Oh non, arrête le teasing, femme, merde.
Allez.
Bon, alors, la sérieuse, c'est Éric Boulier qui a dit « Vous pouvez avoir un contrat, mais il y a des clauses de sortie pour toutes les parties impliquées. » Ça, c'est pour Petrov. Oui. Parce que c'est vrai que, bon, là, justement, on vient de parler un peu des baquets et tout ça. On se disait « Bon, Petrov, il est là. » Et alors, l'idée qui se trame, c'est qu'il y en a qui disent qu'en fait, Senna, en comparaison, amènerait plus de sponsors que Petrov. Oui. Donc, au final, s'il le remplaçait, il y gagnerait. Bon. Mais après, il a un contrat. Enfin, c'est ce qui se dit, hein. Après, c'est vrai que Petrov, il vient avec des sponsors,
Bah ouais, mais c'est ça, je comprends pas, en fait.
Voilà, c'est...
C'est sympa pour Williams.
Oui.
C'est le genre de pilote qui est pas forcément mauvais, qui a de l'expérience. Ah non, c'est très bien. Il irait très bien chez Williams. Williams, Lada. Oh la vache.
Donc ça, c'était la citation sérieuse, et l'autre dont j'ai honte, mais j'ai honte, mais quand je l'ai lu, je pouvais pas m'en empêcher. Et pourtant, je suis le premier à dire, non mais les gars, faut s'intéresser à la F1, faut arrêter les à peu près, et tout ça. J'ai honte.
C'est Denis Brunier?
Non, c'est mieux que ça. Et j'ai envie de dire, ce soir, c'est la fête à Lewis.
Qu'est-ce qu'il a dit encore, le pauvre?
Ce n'est pas ce qu'a dit Lewis, c'est ce qu'a dit Nicole.
Oh non, non, je dis non, tu vas pas craquer, je dis non, non.
C'est trop beau. Cette chère Nicole, qui était invitée au Breakfast Show d'une radio anglaise, quand on lui a posé la question, avez-vous déjà enfilé la combinaison et le casque de course de Lewis? Est-ce que vous savez ce qu'elle a répondu?
Non.
Vous ne savez pas?
Je préfère pas savoir.
Je pense que oui, peut-être, elle a essayé, mais je pense qu'elle a dû répondre à un truc à côté de la plaque, non?
Elle est trop petite.
C'est pire que ça. Elle a répondu, non.
Mais lui, il a mis la mienne, non?
Mais lui a mis l'une de mes tenues en latex.
Ah, quand je verrai Lewis à côté de Max Mosley, j'aurai toujours un doute maintenant.
Qu'est-ce qui lui est passé par la tête de balancer un truc pareil à la radio?
M'étonne qu'il a du mal dans la voiture.
Tu m'étonnes qu'il est pressé d'en finir.
En même temps, qui n'a jamais essayé les trucs de sa copine? On va essayer de le défendre.
Non, non.
C'est vrai, on est désolé, Lewis, là, on peut pas te défendre.
Allez, Fab, essaie de passer après ça, tiens.
Alors, Fab. Ma déclaration. Alors, c'est, oui, clairement, j'aimerais qu'il reste, mais c'est à lui de décider s'il prend toujours autant de plaisir. Mais pour l'équipe, ce serait une bonne chose.
Ah, ça dit quelque chose, ça.
C'est aussi alors, qui de la part de...
Qui a pu dire ça?
C'est Nico Rosberg, non?
Exactement. C'est bien sûr à propos de Schumacher, et c'est pas pour la saison 2012, mais bien pour l'après 2012.
Oui.
Donc lui, il souhaiterait, ça le dérangerait pas, que Schumacher...
Ah, tu m'étonnes.
Chez Mercedes, mais en même temps, je me dis que s'il part chez Mercedes, ça le dérangerait pas que Schumacher il reste.
C'est quand même vachement mieux de défoncer son coéquipier de 64 ans.
Alors papy, t'as pris ton volant ce matin? Puis comme ça, il aura l'impression de rouler avec son père.
Faut qu'il se laisse pousser la moustache.
Oui.
Il y a Kéké.
C'était les news.
Oui, c'était les news.
On va passer à la course.
Qui dit course dit qualif.
Ouais.
Et donc rappelons que ce pauvre Liudi avait une pénalité de 5 places. qu'on n'a pas vu parce qu'il a fini 24e, mais rappelons-le.
On pourra quand même saluer le travail de Liu Zi qui a quand même participé aux qualifications, ce qui lui a d'ailleurs coûté cher en course puisqu'il a dit dans ses déclarations d'après-course que en fait il a eu un problème avec ses pneus sur la fin et qu'ils ont été obligés de monter l'un des pneus qu'il avait utilisé, l'un des trains de pneus qu'il avait utilisé en qualification, ce que ne font quasiment jamais les petites écuries qui ont une palanquée de pneus qu'il leur reste, parce qu'en fait il a beaucoup roulé en qualification, bah il a fait des essais en fait, alors qu'il était sincèrement pas obligé quoi, il aurait pu faire un tour, faire un petit chrono rapide et puis enfin un petit chrono rapide avec la HRTC paradoxale.
Et donc cette semaine, c'est un petit nouveau je crois en tout cas pour cette saison, hein, en 18e place. C'est une Lotus Renault, c'est celle de Vitaly Petrov. Mais en même temps, c'était pas le week-end des Lotus Renault. Ah, mais alors, pas du tout.
Non, pauvre Vitaly, il a eu un week-end pourri. Hein.
Ouais, ah
non,
oui,
c'est ça. C'est
parce qu'en fait, ils sont arrivés avec un tout nouveau package. Mais vraiment une grosse révision de la voiture. Hein, avec repositionnement des échappements, un arrière en forme de bouteille de Coca-Cola et compagnie. Sauf que le petit problème, c'est qu'ils ont mal réglé le positionnement des radiateurs, ce qui fait qu'il y avait un risque de surchauffe sur sa voiture. Donc ils ont dû tout démonter pour remettre l'ancien package. Donc en fait, sincèrement, vendredi soir, ils connaissaient même pas la piste avec son package actuel. Donc voilà, il a fait un week-end pas terrible, mais encore une fois, c'est-à-dire qu'il se retrouve un peu dans la position d'Heidfeld. Il y a quelques cours, c'est-à-dire qu'à Heidfeld, on lui foutait tout le développement, mais comme les développements marchaient pas, il fallait les retirer. Donc du coup, Heidfeld, il était derrière Petrov. Là aujourd'hui, bah c'est lui qui fait le boulot d'Heidfeld, et donc c'est un peu inquiétant pour lui d'ailleurs.
Oui, bah surtout quand t'entends les déclarations de Boulier, parce que
oui, bah voilà.
Oui, il y a un contrat, mais il y a des clauses qui permettent d'en sortir. Bon, déjà, il doit commencer à sentir un peu un vent chaud sur sa nuque.
Oh, il parle peut-être de Senna.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Ou alors, c'est à propos de Kubica. Il y a une clause, l'article 39.7, pas de main, pas de volant. C'est le mec terrible. C'est maintenant tous les mecs, quand ils vont faire un contrat, ils vont mettre la clause 39.7, pas de main, pas de volant.
Bon, sinon...
Ça va retirer un sacré paquet de pilotes. Hein. Que des manchots, il y en a eu, il y en a encore en Formule 1.
Sinon, en Q2, on notera que alors Kobayashi n'a pas fait de temps en Q2 hein, suite à un accident, qui est 17e. Alors Senna, on vous l'a dit, hein, Lotus Renault, c'était pas terrible, ne fait que 15e. Ça change. Alors, le temps, c'est que c'est la troisième course. Oui. Mais ça change quand même. Sinon, un joli résultat des Williams, qui font 12 et 13. Hein. En même temps, c'est sûr que quand derrière, tout le monde se plante, voilà. Williams, c'est non, là.
Elles ont été assez fringantes, les Williams, en essai libre 1, je crois. Ils ont fait 11e et 13e. Ils ont apporté pas mal de nouveautés. Vous étiez assez contents de voir que tout marchait comme ils s'y attendaient. Donc
Perez 11e avec sa Sauber, plutôt pas mal.
C'est pas mal. Il aurait pu même être dans le top 10.
Et donc en Q3, alors ils sont tous bien en ordre, hein, deux par deux.
Ah oui. Un randonnion. Les leaders devant les coéquipiers. Ah non, pas chez McLaren.
Bah, au championnat, hein.
Ah oui, t'as raison.
Hein, bon.
Avec quand même trois pilotes qui n'ont pas fait tant en Q3.
Faut vraiment trouver une solution parce que c'est pénible.
La règle, ouais, c'est...
Alors, je sais quoi?
Je me suis dit sur le coup, tu sais ce qu'il faudrait faire? Si tu roules pas en Q3 au moins, si tu fais pas au moins un tour chronométré, 10 places de pénalité.
Ah bah, on est la même.
Ouais, non, mais c'est toi qui proposais ça sur le site, Fab. Après, moi, c'est vrai que c'est compliqué, je pense qu'il vaut mieux plutôt les inciter à le faire. Moi, je serais pour, on change rien en qualif telles qu'elles sont. Mais les mecs qui sont en Q3, bah, ils ont droit à un train de pneus. Super tendre ou un pneu qualif quoi, mais vraiment pour se faire plaisir. Et là, on peut très bien envisager un format sur un tour ou un truc dans le genre.
Il y a un truc qui m'a fait super rire hier dans Dimanche F1, c'est que quand ils ont parlé justement de la possibilité, pourquoi pas, de mettre des pneus de qualif, ils nous ont quand même sorti, mais vous comprenez, non, ça peut pas être forcément évident parce que ça va multiplier les setups pour les bagnoles. Alors attendez, on parle de la F1, c'est-à-dire qu'à une époque, la F1, les gars, ils avaient des pneus de qualif, un moteur de qualif,
des voitures de qualif,
et ça les emmerdait pas.
Il y avait même des pilotes de qualif, c'est les mecs qu'on voyait pas en course. Non mais tu rejoins ce que dit en fait Prost ce matin aussi dans son interview, parce que il dit clairement aujourd'hui il y a pratiquement plus de mise au point quoi. Donc
mais un pauvre petit setup de qualif, c'est pas la mort hein, pour les F1.
Non mais c'est clair.
Surtout qu'on ne parle que de mettre des pneus plus tendres que les autres hein. Donc ça serait tout à fait possible, mais c'est vrai que trois là, je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on en a trois. En général c'est un ou deux. là, trois d'un coup.
Mais c'est toujours la même forme. C'est les 4-5 favoris sortent pour un premier tour. Les autres regardent. Et ensuite, tout le monde ressort pour faire son petit tour.
Sauf ceux qui veulent vraiment économiser.
Voilà, sauf ceux qui veulent économiser.
Parce que Choumi n'est pas sorti, mais Nico, lui, est sorti. Hein, comme quoi, c'est pas propre à l'équipe. Enfin, je sais pas pourquoi il y a eu. Au moins, on peut dire que Force India, voilà, ils ont fait la même chose pour les deux voitures. Là, Mercedes, je sais pas pourquoi. Nico, il y est allé. Bon, il a fait que 7, mais il y est allé. Alors, après les Mercedes, on trouve le rang des Ferrari. Avec Fernando, qui est notre Mr. 5, donc ça, ça change pas. Oui. Et Massa.
Il était pas content après ses qualifs, Massa. Alonso était content, Ferrari était content, puis Massa, il était pas content.
Il avait déjà eu un contentieux avec quelqu'un.
Oui, c'est.
On verra le nom.
Je vois pas de qui parle.
Attendez, on en parlera plus tard.
C'est-à-dire que tu pars du principe qu'il sera classé.
en fait, oui. En fait, hier soir, non. Cet après-midi, oui. Et après, j'ai eu un doute.
Oui, c'est vrai. Ensuite, on trouve Laurent des McLaren avec donc cette erreur. Enfin, ils ont eu un pépin technique, ils ont dit. Apparemment, il y a eu un problème lorsqu'ils ont ravitaillé.
Oui, non, mais ce qui était ridicule, c'était la manière dont ils... Enfin, tu vois que le chrono défile, une 50, oui. Une 49, et tu les vois en train de préparer la voiture.
Il reste 1:30, les gars.
Puis après, tu dis, je sais pas, ils ont peut-être voulu feinter quelqu'un pour faire sortir une Force India, un truc comme ça.
Tu vois le truc, ils voient une vente pilote penaud, ils remettent les housses et tout ça, bah merde.
Mais oui, tu vois Lewis qui est en train de mettre les gants et tout, tout le monde qui s'agite autour de la voiture, puis une 30, une 29, et là, tout le monde qui enlève tout, qui se barre.
C'est vrai que Lewis a globalement pas été très chanceux sur l'ensemble de son week-end. Il a pas forcément non plus forcé sa chance, mais je pense que vraiment ça les a déstabilisés, puis que ça les a totalement décalés dans leur préparation. Et du coup, bah ils sont arrivés à un petit problème qui généralement serait peut-être réglé. Bah là, c'est devenu très problématique parce que la crevaison a décalé tout leur programme et voilà.
Ouais, parce que après ils ont eu un problème, mais c'est au niveau du fait que comme il n'y a plus les ravitaillements en essence cette saison, la trappe à atteindre est beaucoup plus difficile. Ouais. Enfin, c'est beaucoup moins rapide qu'avant, donc ils ont mis un peu de temps, sans doute certainement à cause de la crevaison. D'ailleurs, la crevaison qui se passe sur un tour, qui à mon sens n'est quand même pas nécessaire, qu'il ressort. C'est vrai que sur le coup on se demande. Enfin, on se demande pourquoi il ressort, en fait, parce que même s'il est huitième, il y a quand même un gouffre. Je sais plus, il y avait 1:08, un truc comme ça, avec le neuvième. Enfin, c'est une mauvaise gestion, je pense.
Puis du coup, c'est gâcher un train de pneus pour la course, quoi.
Bah ouais.
C'est Button qui en profite, hein, troisième sur la grille.
Alors que Lewis était deuxième, hein, et qui pouvait peut-être prétendre à mieux.
Bah oui, c'est ça. S'il avait plus le temps de faire son tour en plus, sans doute qu'il aurait été trois, voire peut-être même deux.
Mais c'est la force quand même de Lewis, c'est que il arrive quand même à sortir des temps dans des circonstances où voilà, ça semble pas aller, il arrive quand même derrière à claquer un temps et à exploiter la voiture correctement. Donc c'est vrai que là, c'était vraiment dommage parce qu'il méritait une deuxième place, si c'est pas à la pole position peut-être.
Bah, de toute façon, enfin, c'est toujours ce débat éternel, j'ai envie de dire, entre qui est le meilleur intrinsèquement. Il y a des chances que ce soit Lewis, parce que on le voit quand tout va bien de chaque côté, Lewis prend très facilement l'avantage sur Button.
Ouais.
Très facilement, c'est pas non plus facile de le faire, mais il prend beaucoup d'avance en général quand tout va bien. Mais Button est un pilote qui, et c'est vrai que moi, franchement, il m'épate tout le temps. C'est d'une régularité. C'est incroyable. Ce mec-là n'a pas de montagne russe en fait dans ses performances. Il est tout le temps linéaire. Et là, en qualif, il est là, quoi. C'est lui le taulier. Il va faire son temps. Il fait le temps. Il se place derrière les deux Red Bull. Enfin, le premier des autres, quoi, on va dire. Voilà, c'est Lewis. C'est vrai, comme tu dis, c'est la malchance parce qu'il est dans une mauvaise période. J'ai l'impression, moi, qu'on est au Canada. Au Canada, j'étais déjà là et je disais, faut qu'il fasse attention, faut qu'il prenne un peu de recul, faut qu'il soit un peu plus cool parce que ça va lui porter préjudice. En fait, on est exactement au même point, c'est que Lewis est toujours pas sorti de sa mauvaise passe. Finalement, même s'il y a eu une embellie après l'Allemagne, il est toujours dans cette mauvaise passe et toujours pareil, quoi. Il va falloir qu'il se calme un peu.
Et donc sur la première ligne, reste les Red Bull comme d'habitude. Quoique Weber 2, ça arrive pas souvent qu'il fasse 1 et 2. Souvent il y a une McLaren et puis
voilà.
Voilà.
C'est souvent Vettel et puis après on charge Weber.
Ouais.
Non, c'est ça.
Moi, en même temps pour ce que ça sert, hein, qu'il parte deuxième ou tième.
Ça a bien servi quand même.
Voilà, parce que là, il part quand même deuxième, il perd deux places pour les quatre.
Oui, c'est vrai.
Mais s'il part huitième, il perd deux places sixième.
Alors hier, dans Dimanche F1, ils ont fait une statistique sur justement en comparant la position sur la grille et la position au bout du premier tour. Et Mark Webber se retrouve, je crois que c'est plus de 20 places qu'il a perdu depuis le début de saison.
C'est une statistique que fait aussi James Allen sur son blog, où effectivement il le fait après chaque course. Et je crois qu'après l'Italie, c'était 22 places qu'il avait perdu. Alors que quand on compare, c'est 4 places de perdu pour Vettel et Hamilton, qui partent généralement devant, donc c'est un peu naturel. Et ensuite, c'est, je crois, 4 places de gagné pour Massa et 8 pour Alonso, depuis le début de saison, en moyenne.
Ouais, voilà. Eux, je pense qu'ils avaient fait les comptes après Singapour, ils mettaient 7, je crois, pour Alonso. Voilà. Enfin, donc ça... Lui, on a gagné par rapport à tous les autres. Voilà. Quoi. Et donc en pole, bah, bon, que dire de plus, c'est comme d'habitude.
On va passer à la course alors.
Oui. Donc, juste noter que c'était sa 26e pole, hein, Sébastien Vettel, la 34e pour Red Bull, la 189e pour Renault, à une moyenne de 174,963 km/h. Et en effet, on va passer à la course.
Oui, c'est plus prudent.
Oui, je pense. Oh.
On va passer au top 10.
Oui, et d'abord à ceux qui ne sont pas dans le top 10.
Oui.
Vous avez été nombreux à voter, hein, pour indication, le number one a récolté 675 points.
Exactement.
Mais ne marquera que 25 points dans le classement du SAV, rappelons. Et donc, ne marquons pas de points dans le classement du SAV. Daniel Ricciardo, Timo Glock, Vito Antonio Liuzzi qui sont 22e ex aequo avec 0 points. 20e ex aequo, Kobayashi Aguirre-Suari, 2 points. 19e, Buemi, 4 points. 18e, Rubens Barrichello, 6 points. Peut-être ses derniers points dans le SAV, qui sait. Yarno Trulli, 17e, 7 points. Pastor Maldonado, je suis toujours Kimi Räikkönen. Pastor Maldonado, 16e avec 10 points. Vitaly Petrov, tout de même, 15e avec 16 points. Deux places derrière. Bah justement, Bruno Senna, hein, comme en course, deux places derrière. Bruno Senna ex aequo avec Kovalainen, 22 points. 12e, c'est une petite surprise, D'Ambrosio, 31 points. Et Mister Eleven est de retour, puisque Michael Schumacher est 11e avec 41 points. Soit son âge, ou presque.
Mais il y a un beau petit écart quand même avec lui.
Oui, il y a quasiment du simple au double.
Simple au double. Alors notez, Fab, tu as donné un point à Kovalainen.
C'est mignon. Ouais.
En même temps, il a
oui.
Non, c'est lui ou Trulli qui a fini devant une Lotus Renault?
Eh ben, c'est lui.
Puisque Trulli n'a pas fini la course, donc.
Trulli.
Oui, c'est vrai.
Tu me diras, il aurait pu finir quand même devant une Lotus Renault.
Et à noter, dis donc, tu as mis 2 points d'Ambrosio.
Oui.
Hein, comme quoi.
Il m'est arrivé un truc bizarre. J'ai failli même le mettre plus haut, hein, sérieusement.
Qu'est-ce qui t'est arrivé bizarre?
Mais il m'est arrivé un truc bizarre, c'est que j'ai vu une Virgin. C'est sincèrement, si on est honnête, quand on regarde les courses, on met...
Cette phrase est bizarre.
Mais, généralement, quand on donne des points aux petites écuries, c'est parce que soit ils ont fait un truc bizarre en course, genre D'Ambrosio qui fait son tête à queue dans les stands, là je lui avais donné un point.
Là il a fait un truc bizarre, on l'a vu.
Mais, non mais, je l'ai vu comme j'ai vu sa course, j'ai vu qu'il a fait une super bonne course. Ce qui quand même, au volant d'une Virgin, est très difficile à percevoir. Donc c'est vraiment qu'il a fait une très bonne course pour qu'on puisse le voir.
C'est vrai.
Mais voilà, je trouvais que ça méritait d'être souligné.
Bah, j'hésitais, moi, entre lui et Kovalainen. Ah.
Et donc, à la 10e place, avec 83 points, donc, comme disait, l'écart quand même est conséquent, eh bien, c'est le pilote mexicain Sergio Pérez, à qui j'ai donné un point.
Un bon tremplin.
Oui, tu disais?
Je disais un bon tremplin.
Ah, un bon tremplin, d'accord.
Un point commun qui est partagé avec Kovalainen.
Exactement.
Non, mais c'est Schumi qui fait qu'à copier.
Non, mais faut quand même en profiter parce qu'on a enfin vu la carrière de Michael Schumacher décoller. Profitons-en, c'est peut-être l'une des dernières fois.
Perez a pas bien décollé aussi sur la fameuse chicane 10.
Tiens, d'ailleurs, Brice Roux.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Ah ouais, parce que j'en en avais mis aucun.
C'est vrai.
Mais on a entendu tout le week-end, notamment de Malbranque, que ces chicanes ne plaisaient à personne et qu'elles devraient être retirées. Alors moi, je suis pas du tout d'accord en fait. Moi, je pense qu'un circuit, ça s'envisage pas dans ce qui pourrait être, mais dans ce qui est. Et le circuit, il est comme il est. Et moi, je trouve, au contraire, cette chicane plutôt très bonne parce que c'est quand même une chicane dans laquelle tu n'as pas le droit à l'erreur. Et je pense qu'en F1, on a un peu oublié qu'à une époque, quand tu faisais une erreur, tu la payais en sortant. c'était, ça fait partie de la course aussi. Alors, je suis pas un adepte des sorties pour les sorties. Ça me fait pas plaisir quand quelqu'un vient se vautrer contre un mur, ni rien. Mais faut quand même, à un moment, se dire qu'on peut pas toujours, même si ça tend à le devenir, avoir des zones de dégagement de 30 mètres qui permettent au pilote de se dire, bon, de toute façon, ce tour-là, je peux bien me planter. Puisque de toute façon, ça n'importera pas à conséquence. À un moment, c'est bien, je trouve, qu'on ait sur les circuits des zones dans lesquelles, eh bien, si tu fais une erreur, eh bien, tu la payes. Parce que la F1, c'est aussi un sport de précision, c'est un sport de régularité, et c'est pas au petit bonheur la chance sur advienne que pourra, quoi. Et donc moi, ça m'a un peu exaspéré d'entendre tout le long de la course, notamment des critiques, tout le long du week-end surtout, des critiques sur cette chicane qui, ça fait la quatrième fois qu'on vient à Singapour, depuis quatre fois. À un moment, faut quand même, voilà, c'est une chicane qui ne pardonne pas les erreurs. Et c'est pas parce qu'elle pardonne pas les erreurs que c'est pas une bonne chicane. Encore une fois, on peut toujours arguer de sa position, de son intérêt dans le circuit, ça tout à fait, moi je veux bien. Mais on peut pas arguer du fait qu'elle est trop difficile parce qu'à un moment, on est quand même dans l'élite du sport automobile mondial. Et qu'il faut qu'il y ait des juges de paix et que cette chicane en fasse partie.
Non, voilà, tout simplement. En même temps, pour la passer, il faut juste freiner. Hein.
En plus, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément déjà quand on fait le jeu, elle n'est pas nécessairement très dure. Faut vraiment bien rentrer. Si tu rentres bien dedans, après, il n'y a pas de problème. Tu peux même jouer avec les vibreurs. Les pilotes d'ailleurs ne se gênent pas pour le faire. Mais c'est en plus, ils l'ont reculé, c'est-à-dire qu'ils l'ont élargi cette chicane parce que ça se voyait d'ailleurs. Ils ont reculé une bonne cinquantaine de centimètres les vibreurs, ce qui fait que vraiment là, tu pouvais vraiment passer au milieu assez proprement, ce qu'on fait de nombreux pilote, hein. Il y a que Kobayashi qui s'est vautré.
Non, mais voilà, c'est ça. Puis bon, à un moment quand même, c'est sûr que si tu te plantes, tu vas dans le mur. C'est ça aussi la course automobile.
Sinon, sur Perret, vous avez quelque chose à rajouter ?
Non, moi je l'ai mis un petit peu parce qu'en fait, pour te raconter comment j'ai fait mon top 10 chez G, j'étais tranquillement assis devant mon bureau et tout d'un coup, on frappe à ma porte.
C'était Sergio Perret.
Non, pire. Il y avait une bande de guerrieros avec les grands chapeaux mexicains qui attendaient devant ma porte. Les chaînes avec les grosses moustaches, les chaînes avec les cartouches et tout dedans. D'ailleurs, il en manquait une ou deux, je pense qu'ils venaient de tuer un de mes voisins. Une odeur de tequila, mais vraiment tequila passé. Et les mecs m'ont dit, si tu mets pas Thérèse, c'est rigolo. C'est ça. Je me trompe bien dans les mots. Si tu mets pas Thérèse dans ton top 10, attention, on va te régler ton compte. Et moi, tu sais, je suis moins courageux que toi, Shinji. Toi, tu affronte les tifosi, mais moi jamais j'affronterai les Mexicains, donc je me suis un petit peu senti obligé de le mettre dixième.
Des Mexicains de Naples, hein, quand
oui.
même.
Oui. Donc, non, mais sincèrement, je l'ai mis parce que, voilà, il a été dans les points, en ayant eu voilà. Schumacher derrière lui, quand même, faut le faire.
Allez, passons dans ce cas-là à la 9e place. Il a marqué 106 points. Je lui ai donné 2 points. Fab lui a donné 6 points, mais sinon, tu lui as pas donné de points. C'est Sutil.
Bon, ça va pas, t'es fou, comment mettre des points à Sutil?
Non, mais, ouais.
Il y a une bonne performance d'ensemble quand même des Force India, même
c'est
si
ça, voilà.
Plus vu d'Iresta, qui était beaucoup mieux classé. Non, Sutil en plus, il
Bah, il finit 8e et puis il a clairement sa course gâchée par un choix de Force India qui a été de faire rentrer sous la safety car les deux voitures en même temps. Ce qui fait que Sutil est resté bloqué derrière d'Iresta. Enfin, il est resté bloqué, enfin, très rapide hein, quand même. C'est plus bloqué comme on pouvait être du temps des ravitaillements.
Ouais.
Et ouais. Il a perdu en fait une place sur Rosberg qu'il a jamais pu récupérer.
Ouais, mais c'est ça, j'ai mis bonne performance d'ensemble de Force India.
Yeah, ouais.
Et puis, malgré un état d'esprit qui ne doit pas être optimal, une plutôt bonne performance.
Force India ouais. remonte et il paraît même qu'il commence à lorgner sur la place de l'autre Renault, hein. Même s'il y a une vingtaine de points, bon, il reste 5 courses.
Ouais,
c'est faisable, hein.
C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait faisable.
J'en ai pris 12 ce week-end.
On va passer à la 8e place. Il a marqué 121 points. On lui a tous donné 4 points. Quoi, on l'a bien visé. C'est Felipe Massa qui a eu quand même une course gâchée. Ah, on peut pas.
C'est vrai.
Enfin,
mais plutôt bonne.
Oui, non, mais en même temps, elle est gâchée. Mais il y a aussi, il y a un truc que je comprends pas, quoi. C'est que il y a la crevaison, l'incident avec Hamilton, il a lieu genre 19e tour, et il y a la safety car qui rentre au 30e tour.
Bah ça, c'est même au 13e tour. Hein, là,
ouais, voilà. Donc et il rentre au 26e tour pour changer de pneus, là où tous les autres étaient restés en piste. En plus, je crois qu'il avait monté des pneus durs, enfin les tendres, mais les plus durs des tendres. Quand la safety car est arrivée, bah il est pas rentré. Donc voilà, je pense que c'est avant tout, même si c'est vrai que l'accident et la crevaison lui foutent sa course en l'air, derrière c'est aussi des choix stratégiques que sincèrement j'ai pas trop compris, parce qu'ils sont vraiment sur un relais en pneus tendres et ils vont pas suffisamment loin, quoi. Alors que la logique voudrait justement, comme on sait qu'il y a la crainte de la safety car, d'étendre au maximum le relais possible, et en fait non, bah ils sont rentrés trop vite, trop tôt, donc ils se sont pas aidés eux non plus.
À noter quand même que lorsqu'il a eu la crevaison, ça a été limite, hein, quand il est arrivé au stand, surtout que le circuit est long.
Il restait pas beaucoup,
non.
Ouais. Mais paradoxalement, sur sa course, moi je le trouve meilleur quand il est dans le peloton. Pas qu'il soit pas dans le peloton d'habitude, mais il a cette facilité, je trouve, à se mouvoir dans le peloton que n'ont pas d'autres pilotes.
Bah, faut voir aussi ce qu'on appelle le peloton. Hein. Alors, le peloton de Massa, c'est Force India, oui. C'est Sauber, c'est quand même une catégorie de voitures où théoriquement la Ferrari doit être devant, surtout quand on voit le gouffre qu'ont mis les trois top par rapport aux autres. C'est quand même théoriquement des pilotes qui doivent pouvoir dépasser.
Ouais, mais il le fait assez facilement, c'est ça que je veux dire.
Ouais.
Oui, bah encore.
C'est pas toujours aussi simple que ça. Il progresse assez facilement dans ces zones-là, lui, je trouve.
Tu veux dire que c'est un pilote qui est bon dans le ventre mou du peloton.
Et que c'est voilà. Un peu ça, oui.
Bah écoute, hein, pour après 2012, hein, c'est à étudier.
Peut-être un retour chez Sauber.
Ouais. Mais ça serait bien pour Sauber.
À la septième... Sur cette magnifique vérité, passons à la septième place.
Déjà,
il a marqué 201 points.
Oula.
C'est Rosberg. Que Dino et moi on lui a mis 6 points et Fab lui a donné 8.
Pour une fois, on l'a vu.
Oui, on l'a vu. Mais...
On l'a vu quand il a causé l'accident de Schumi indirectement. Quoi.
Oui, non, mais même, enfin, il s'est retrouvé sur le chemin de Lewis. Bon, il a pas forcément fait grande figure, mais pour une fois, on l'a vu en piste. Pour une fois, il était suffisamment dans la merde pour être gêné par les forces médias et pour être confronté aux autres. Donc voilà. Pour une fois, il s'est mis en valeur, quoi. Alors que généralement, il est plutôt entre ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière, puis on le voit pas. Donc là, ça l'a un peu changé.
Là, bien, il est derrière.
Voilà. Bon bah sixième place alors.
Rosberg fait toujours recette, hein.
Rosberg. Puis de toute façon on va beaucoup plus parler de la sixième place.
Ah.
Puisque je lui ai mis 8 points. Dino, tu lui as donné 10 points. Et alors Fab, tu l'avais mis, puis tu l'as plus mis. Donc moi j'ai la version que tu l'as plus mis, hein.
C'est ça, tout à fait. Je maintiens.
Non. Pas toi Fab. Non.
Il a marqué 200 points. C'est pas joué à beaucoup, hein, avec Rosberg. Il a quand même roulé pas mal de temps avec son aileron avant pété, hein. Ça m'a surpris.
Deux tours, je crois.
Deux tours, hein. C'est Lewis Hamilton, hein. Dont c'est un peu la fête ce soir.
Oui. Hein. Bonne fête, Lewis.
Un peu comme
un dur à cuire, finalement.
Un peu comme Lewis. Excuse-moi, faut être précis, ce n'est pas du tout.
Oui.
Allez.
Ah, Lewis. Bon, on a déjà parlé, hein. Et encore une fois.
Tu l'as pas mis, toi, Fab?
Non, il l'a pas.
Et pourquoi?
Il l'avait mis, il l'a enlevé.
Ça, en fait, c'est une simple question de logique. C'est le copier-coller de l'incident qui s'est passé en Malaisie entre Alonso et Hamilton. Ouais. Même schéma, même conséquence. J'ai laissé Massa parce que sa course a été gâchée par ça. Voilà. Et j'ai enlevé Hamilton qui, trop pressé, a commis l'erreur. Voilà, tout simplement.
Il est cohérent.
C'est de la logique, voilà. Je l'avais mis au début, et puis bon, après, c'est vrai que je me suis dit, de toute façon, à un moment, faut pas toujours tout excuser, voilà, impatience, sanction.
Mais moi, c'est pas trop sur l'accident de la course qu'il me... bon, il contrôle mal, enfin, il estime mal son aileron. Après, bon, on l'a vu arriver, sincèrement, c'est arrivé plusieurs fois, surtout avec les F1 modernes, avec leur grande pelle à tarte devant, ça arrive assez souvent. Donc, c'est pas vraiment sur ça que moi qui m'a choqué, c'est surtout cette image en qualification où il essaye de dépasser Felipe Massa, alors que sincèrement, derrière lui, il y a strictement personne.
Et en plus, c'est lors du tour de sortie, voilà, c'est pas.
Derrière lui, il y a personne. Il y a au moins 20 secondes, donc il pouvait très bien freiner et puis laisser Massa partir devant. Et non, il a fallu qu'il le dépasse. Et puis en plus dans un endroit où, sincèrement, enfin, il a essayé de dépasser ce tunnel, c'était complètement stupide. Donc voilà, c'est ce que dit Stewart. C'est d'ailleurs, je pense, l'incident qui l'a le plus choqué. Stewart, c'est pourquoi? Pourquoi faire? C'est inutile. Pourquoi aller se mettre en danger, foutre en l'air sa qualification, par conséquent foutre en l'air celle de Felipe Massa? C'est totalement gratuit. Et alors après, en course, l'incident, sincèrement,
c'est pareil, hein, ça lui gâche aussi un peu, ça lui gâche sa course. Hein.
Ouais, mais c'est ça.
Il s'est montré rapide. Hein.
Oui.
C'est pas que la course de Massa qui est gâchée, c'est la sienne aussi. C'est un tout, quoi.
Parce que c'est vrai qu'il fait pas derrière, il remonte très fort. Bon, il fait un très mauvais départ, mais derrière, c'est vrai qu'il remonte très très fort.
En plus, il y a le drive-through, forcément, qui est venu après.
Bien aidé par Weber, hein, quand même, qui joue bien son rôle de deuxième.
Oui, oui, voilà. Non, Weber n'est pas là, numéro 2.
Bon, on en reparlera, mais je crois que c'est la course où il a accepté son rôle.
Oui.
Il était tout sourire à la fin, il était content. Bon.
Et il fait bilan vers 2012.
C'est ça. Ouais.
Bah tiens, quand je parle de bilan de 2012, j'hésitais un peu, mais je vais faire mon drive-through tout de suite.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-through. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Alors mon drive-thru, ce serait un drive-thru contre Mark Webber. Alors c'est pas du tout le sujet, mais en même temps vous allez voir qu'il y a un lien. Et pas seulement aussi Mark Webber, mais un petit peu pas mal de commentaires que j'ai lus, notamment sur Twitter de certains journalistes français, puisqu'il y a eu une conférence de presse jeudi où un journaliste français est arrivé en demandant à Webber s'il n'était pas frustré d'être dominé par Sébastien Vettel.
Alors il lui a répondu, tu m'emmerdes avec cette question.
Non, il lui a répondu, oui, j'ai plus qu'à y aller et à me pendre l'ami, avant derrière de grommeler en disant « putain de branleur ». Donc bon, c'est vrai que la question est pas forcément élégante, que de demander à un pilote s'il est pas frustré de se faire dominer. C'est vrai aussi que, je veux bien comprendre, il avait laissé un message sur Twitter quelques heures auparavant en disant « voilà, je suis arrivé à l'hôtel, il est à quelques minutes du circuit, c'est très bien, mais il est pas encore fini de construire, donc il y a encore des travaux, j'ai pas dormi de la nuit ». Donc c'est vrai que je peux comprendre aussi que il était dans un état de fatigue peut-être et que il est vite monté sur ses ergots. Cependant, ce que je regrette, c'est que on a quand même un pilote qui a insulté un journaliste devant la presse et surtout ce qui est choquant, c'est que derrière ça ne fait quasiment aucun bruit. Alors que quand Lewis Hamilton dit fait ses déclarations à Monaco, etc., qui sont choquantes, tout le monde se choque fort à propos. Là, c'est vrai que les déclarations de Webber sont quand même très choquantes. Alors c'est vrai qu'il a sa liberté de ton, qu'il a qu'il n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, mais il pouvait peut-être juste se contenter du sarcasme en disant j'ai plus qu'à aller me pendre, s'arrêter là, plutôt que derrière de rajouter ce putain de branleur qui n'était pas non plus nécessaire, qui donne pas nécessairement une bonne image. Et puis sincèrement, sur Twitter, des gens qui disent ah tiens, celui-là, il y avait là un journaliste français qui s'est bien fait recaler. En même temps, le journaliste, il fait son travail aussi, c'est des questions que tout le monde se pose et que d'une certaine manière, il est en légitimité aussi de se poser. Et ce qui est triste en plus, c'est que la réponse que donne Webber, finalement, va dans le sens de la question du journaliste, puisqu'on lui demande s'il n'est pas frustré, et l'agressivité de sa réponse laisse à sous-entendre que oui, effectivement, il est peut-être frustré.
Je suis d'accord avec toi sur beaucoup de choses que tu as dit. Après, moi, je vais aller un peu à sa décharge, parce que justement, en plus, l'actualité franco-française, on va dire,
oui.
du sport, nous ramène à cette problématique des journalistes envers les acteurs du monde sportif. On est quand même dans une société dans laquelle les médias te font ou te défont une image assez rapidement. Et on est dans des sports dans lesquels il y a une pression très forte. Le football, je crois qu'on en a eu un exemple avec Domenech qui avait des torts, c'est sûr, mais qui s'est fait proprement lyncher. Enfin,
même récemment avec Livremont.
Ah mais justement, avec Livremont ce week-end qui lui était sur la crête, c'est-à-dire toujours entre on l'aime ou on l'aime pas, et qui avec cette déclaration passe dans le camp de on l'aime pas et qui a un traitement de la presse derrière lui, mais pas seulement que de la presse d'ailleurs, hein, des acteurs, des anciens acteurs aussi du monde sportif, qui a un traitement qui va devenir un lynchage, hein, et on a en face de ça des sportifs qui sont justement, Webber est dans une position très délicate, Livremont est dans une position plutôt délicate, Domenech, on s'entend, était dans une situation qu'il avait créée lui aussi, mais était dans une position délicate. Et on est en face de gens qui posent des questions qui, certes, sont importantes, c'est pas ça le problème, mais qui à longueur de journée, enfin moi je pense sincèrement qu'à longueur de journée c'est quand même très agaçant d'avoir tout le temps à répondre aux mêmes questions et de se retrouver toujours en position de devoir se dire oui, enfin non, je suis pas frustré, oui, je suis frustré. Enfin, je pardonne pas parce que c'est des professionnels, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a aussi des questions qui sont.
Mais c'est pour ça que.
Enfin voilà, t'as la tête sous l'eau, t'as la tête sous l'eau. On vient te mettre encore une pichenette quoi derrière les oreilles en te disant ah t'es frustré. Mais c'est en plus c'est des questions dont les réponses on les connaît déjà pratiquement. Enfin évidemment qu'il est frustré, évidemment qu'il est vraiment il va pas gagner la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est des questions. Idiote, parce qu'on parle souvent des réponses bateaux, mais on parle pas souvent des questions idiotes qui sont posées aussi, parce que les réponses bateaux, elles sont induites par des questions quand même idiotes.
Mais c'est là, voilà, c'est là où
je veux pas défendre.
Non, mais c'est là où, mais... où je te rejoins parfaitement, c'est-à-dire que mon drive-through, il est en deux volumes. C'est d'abord, c'est vrai que je regrette plus que je condamne, c'est que je regrette la déclaration de Weber qui ne lui rend pas hommage. Et en même temps, c'est vrai que je la comprends aussi, que je regrette derrière, surtout le vrai drive-through que je mettrais, c'est aux journalistes, surtout les journalistes français sur Twitter. Je sais plus lequel. Alors j'en ai deux journalistes français sur Twitter. J'ai celui d'Eurosport et j'en ai un autre de Auto Hebdo. Donc c'est peut-être celui d'Auto Hebdo qui s'est dit ah voilà un pilote qui se laisse pas faire, alors que fondamentalement tous les journalistes se posent la même question et mouraient d'envie de la poser et étaient bien contents que ce soit un autre qui se fasse tartiner la gueule, parce que du coup, c'est-à-dire que ils laissent un autre poser la question et aller au charbon à leur place, mais ils auraient eu eux la déclaration de Weber si ça avait marché, et si ça marche pas, ils ont la possibilité d'aller de foutre de la gueule de leurs camarades. Donc finalement, c'est tout l'ensemble des journalistes que je critique.
Oui, mais surtout que on est quand même face à un climat, je trouve, de plus en plus, qui a tendance à être celui du journaliste, donc en globalité des gens, heureusement il y en a qui font très bien leur travail, qui essaient de garder cette neutralité et qui ne posent pas des questions qui induisent une réponse qui de toute façon sera interprétée dans un sens négatif, parce que j'en reviens, je pourrais parler de Weber, mais je vais revenir à Lièvremont, c'est sensiblement la même chose. On lui pose une question et vous pensez toujours pouvoir être champion du monde. Il est évident que si quelqu'un pense que la France peut être champion du monde, il se fait lyncher, quoi, tu vois. Si lui répond oui, je pense qu'on peut encore. On va lui dire, ouais. Mais il est fou, il a complètement perdu le sens de la réalité. Mais moi, plus largement, c'est qu'aujourd'hui, le journaliste prend parti. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a une presse, et c'est très criant dans le sport, parce que dans le sport, il n'y a pas autant de retenue que dans beaucoup de domaines, parce qu'on se dit, le sport, c'est justement le domaine où on prend parti. Et dans le sport, en F1, en football, en rugby maintenant, dans tous les sports majeurs, on a une tendance à du journalisme qui prend parti, à du journalisme qui ne se place plus dans le simple relais de l'information, mais dans vraiment une prise de position sous prétexte d'une facilité finalement, parce que c'est facile d'attirer le chaland en disant Weber il a dit putain de branleur, Lièvremont il a dit machin, et essayez ça quoi. Et moi je trouve que c'est dommage, parce que en plus de faire ce qui n'est pas du journalisme, hein, c'est du boutiquage. On ne traite pas les sujets de fond. Et ça, vraiment, c'est insupportable, quoi.
Alors, si on revient sur le top 10.
Oh non, je veux dire, restons sur ce débat.
Non, on va revenir sur le top 10. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Hamilton, déjà?
Ah, c'était Hamilton?
Oui?
Oui, c'est clair.
Non, mais voilà, ça c'est, moi, sincèrement, ce week-end, j'ai plutôt envie de le défendre, Lewis. Bon, encore une fois, il est impliqué dans des accidents. Bon, il est clairement pour moi coupable en qualification. C'est plus pardonnable en course. Voilà, je trouve la pénalité même un peu sévère. Je pense que la pénalité, elle a surtout
le
but d'équilibrer, parce que vraiment, ça a beaucoup pénalisé Massa.
Non, mais là aussi, c'est pareil, la pénalité. Moi, à partir du moment où il s'est passé exactement la même chose en Malaisie et que ça a abouti à exactement la même chose, moi, pour moi, c'est parfait. Il y a une cohérence. C'est souvent ce qu'on a reproché à la FIA. C'est le manque de cohérence entre deux décisions. Là, on a une décision qui est prise au deuxième Grand Prix, qui est respectée au 14e Grand Prix. 14e. Donc, bon.
Allez, dans ce cas, on va passer à la cinquième place. On l'a mis tous les trois troisième.
Non.
Oui.
Et les auditeurs, ils sont...
L'ont mis cinquième. C'est l'autre pilote Force India, c'est Paul Di Resta, qui a marqué 322 points.
Je pense qu'il leur faut.
J'ai failli le mettre premier. Non mais sérieux, j'ai failli le mettre premier.
Il fait une superbe course. Très intelligent.
C'est-à-dire que Moi, quand j'ai fait mon top 10, j'ai regardé le classement et j'ai fait le classement et je me suis dit voilà, tu vas mettre en premier le mec sur lequel t'as rien à dire. J'ai regardé Vettel, je trouvais qu'il avait un petit peu trop géré sur la fin. Puis après, j'ai fait comme ça le classement et finalement le premier sur lequel j'ai rien à dire sa course, je trouvais qu'il avait fait une super course, c'était Di Resta. Donc j'ai failli mettre Di Resta premier, mais je me suis dit non, je vais me faire descendre, je vais me faire traiter. Donc je vais le mettre troisième. Mais vraiment, ça me fait chier de le mettre que troisième parce qu'il fait vraiment une super course sur un circuit qu'il connaît pas avec l'écurie. C'est ça aussi, c'est une course collective, c'est-à-dire que Di Resta a concrétisé, je crois que c'est d'ailleurs Vijay Mallya qui l'a dit, il a concrétisé ce qu'on a mis en place avec l'écurie. Voilà, il a restitué sur le terrain tout ce qu'on avait préparé, tout ce qu'on avait prévu, ça a été restitué sur le terrain. Voilà, ils visaient cette place-là, ils l'ont eu et bravo quoi, tout simplement super boulot.
Ah ouais, non mais enfin, je deviens fan de ce pilote qui fait pas de bruit, fait des courses superbes. Enfin, moi je sais pas, mais tu disais Di Resta Force India dans ton résumé, tu disais Di Resta Force India meilleur des autres. Moi c'est ça que j'ai envie de retenir quoi, c'est que Di Resta pour moi c'est ce qui sort du lot plus que Perez à limite, plus que d'autres. Je sais pas quoi dire tellement il est brillant, je trouve.
C'est le rookie de l'année, même si c'est vrai que cette année on peut dire qu'il y a une belle brochette dans le sens où Perez a fait de belles choses, que même Maldonado dont on donnait pas très cher, on disait ouais, c'est qu'une valise, il a quand même fait des qualifs assez intéressants cette année. Il est parfois arrivé devant Barrichello, c'est encore arrivé cette semaine. Mm-hmm. Voilà, bon après on sait que la Williams c'est pas terrible cette année, mais voilà, il montre des choses. On a une belle brochette de rookies quand même cette année. Même un D'Ambrosio qui n'est que dans la Virgin. Bon, on peut pas, quand on voit strictement, les résultats sont pas extraordinaires. Mais là encore, pareil. On se dit que bon, sur une Virgin, est-ce qu'il peut faire grand chose d'autre, alors qu'il arrive à être devant Glock, à la régulière. Donc, belle brochette de rookies quand même cette année. Et clairement, oui, Di Resta, c'est le rookie de l'année.
Ça joue avec Perez, je pense. Enfin, on verra, mais c'est vrai que ce qui est impressionnant avec Di Resta, c'est qu'il faut quand même se rappeler son chemin. Le mec, il arrive, il est champion DTM.
DTM, quoi, c'est...
Je l'avais dit en début d'année, hein, ce choix quand même extrêmement original. Hein.
Le nombre de pilotes qui s'entêtent à faire de la monoplace, alors que sincèrement, ils en ont pas le talent, c'est quand même un mec qui a battu Sébastien Vettel, alors que Sébastien Vettel était en train de briller en Formule 1, a décidé d'aller faire du DTM, et voilà, il a pas perdu son temps en route, il a appris, ça l'a enrichi. Sincèrement, j'espère qu'il va rester très longtemps et qu'il va nous montrer, qu'il va se montrer à la hauteur de, pourquoi pas, battre Vettel.
Je vais pas dire qu'il est programmé, mais... On le dit hein, même depuis le début d'année, c'est vrai qu'on se dit qu'après l'année prochaine, une année peut-être de plus chez Force India, après on sait que c'est un pilote Mercedes.
Mais c'est sûr que ce soutien de Mercedes est très important époque où sans soutien, parce que avant t'avais les bons pilotes qui rentraient pratiquement automatiquement en Formule 1, t'avais les mauvais pilotes qui rentraient en Formule 1 avec la valise, et là maintenant ce qu'il faut c'est être bon et en plus avoir une valise soutien de poids,
à moins d'être un génie absolu et personne même Vettel à 18-19 ans, tu peux pas dire d'un pilote qui est un génie absolu parce que tu sais pas comment ça va évoluer.
Je souhaite le voir très vite dans une très bonne voiture, pas tout de suite parce qu'il faut pas griller les étapes. Il sera encore l'année prochaine chez Force India et j'espère qu'il aura une voiture encore meilleure, mais je suis impatient de le voir dans une excellente voiture.
Donc Di Resta avait marqué 322 points, le quatrième en a marqué 341, je lui ai donné 12 points comme Dino, Fab lui a donné 10 points, c'est Mark Webber, donc qui serait le meilleur pilote au monde s'il n'y avait pas des départs.
C'est pour ça que je vous invite, c'est pas parce que c'est mon article, mais je vous invite vraiment à lire l'article, parce que bon, j'ai fait un peu de racolage en mettant Webber insulte à un journaliste, mais en même temps, ce qui est vraiment étonnant, c'est que le reste de son interview est très intéressante, où il revient sur, il parle de 2012, il parle de sa saison, où il dit voilà, j'ai pas été bon, c'est vraiment ce qui était dommage, quoi, c'est que sa déclaration était vraiment très bonne.
Ah ouais, c'est toujours pareil, voilà, hein, c'est toujours, on en revient à ce journaliste. Qui fait vendre quoi.
J'ai cédé, j'avoue.
J'ai
cédé dans le titre, voilà, je suis fait avoir dans le titre.
Je veux pas, non mais nous, c'est malheureux à dire, mais faut que les lecteurs, auditeurs comprennent que dans les titres, on met des noms ronflants qui font des vues, mais que les articles sont bien plus poussés que ça. Je vais pas dire qu'on est poussé à faire ça, mais il faut. Offert, sinon on ne peut pas être lu. Mais il faut vraiment qu'ils s'intéressent au contenu des articles qui est souvent très intéressant. D'ailleurs, tu parles de ton article sur les insultes de Webber, mais il y a aussi ton article sur les départs qui est extrêmement intéressant, qui apprend plein de choses quand même sur la mécanique du départ de la Formule 1, qui est quand même pas d'une oui. simplicité extrême et qui nous fait comprendre quand même que c'est toute une, c'est quand même tout un enchaînement de choses qui se met en place bien en amont du départ.
Bon, après, il finit quand même troisième.
S'il sera pas au départ, sincèrement, il est 2GM déjà, parce qu'il a sincèrement le rythme pour être 2GM.
Et Vettel est champion.
Non.
Non, il l'empêcherait de...
Bah, Red Bull est champion pilote sûr. Après, la problématique est le même, c'est-à-dire qu'il faudrait que Vettel
marque
que Weber au prochain Grand Prix.
Non, mais après, moi, je vais pas prendre ce départ comme... je pense qu'il y a beaucoup d'autres départs, mais je pense que c'est le départ, finalement, qu'il a le moins fait pour lui et qu'il a beaucoup plus fait pour Vettel. Parce qu'on voit clairement que ce qu'il fait, c'est quand même protéger Vettel plus ou moins d'Hamilton qui arrive à...
Non,
pour moi, c'est comme ça que je le ressens.
En plus, on est quand même, faut pas l'oublier, sur un circuit urbain et que le départ sur cette ligne-là est un peu pourri. D'ailleurs, c'est pas pour rien non plus si derrière Hamilton se gaufre aussi au départ. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas non plus le genre de départ, c'est pas le départ qu'il faut vraiment retenir pour incriminer Weber. C'est plus des départs comme en Belgique, je crois, où il perd 6 places dans le premier tour.
Ouais. Mais après, au niveau de la course, moi, ce que je me dis, c'est que il aurait difficilement pu faire pire, en fait. Il aurait difficilement pu faire moins bien. Et c'est pour ça que je le mets cinquième, en fait. C'est parce que je pense que,
c'est vrai, quand il pense derrière lui.
C'est dégueulasse parce qu'il avait, c'est dégueulasse parce que finalement, son meilleur résultat, ça aurait été deuxième. Et voilà, troisième pour moi, c'est vraiment il pouvait pas faire moins bien.
Bah, c'est comme toujours, hein, c'est le mystère saison, c'est pourquoi il fait pas mieux avec la voiture qu'il a. Même sans être non plus l'égal de Vettel, mais comment ça se fait qu'il soit pas tout le temps deuxième de la même façon que Vettel est tout le temps premier?
Quand c'est quand même systématique, il y a des mauvais réglages sur les départs. Faut peut-être se dire, on fait une estimation entre les deux voitures, on fait un truc moyen et les deux voitures, on fait les mêmes données. Donc j'ai l'impression que c'est un pilote qui communique pas en interne, l'équipe Weber ne communique pas en interne avec Red Bull. J'ai l'impression que c'est isolé.
Ouais.
Non mais de toute façon, on l'avait pressenti la saison dernière quand il était à la lutte, quand il était même en position de remporter le titre, on l'avait pressenti parce qu'on disait c'est l'année ou jamais.
Oui.
Et cette année le prouve finalement, il est complètement... moi au début je me disais c'est étrange que tous les problèmes lui tombent dessus. Mais au bout d'un moment, quand c'est tout le temps, faut quand même se rendre à l'évidence, il y a quand même un problème de son côté. Alors je dis pas que c'est lui, je dis pas que c'est Red Bull non plus, c'est comme tu dis, c'est sans doute la structure Weber qui est mise en place à Red Bull qui fonctionne pas très bien. Voilà, on a enfin finalement sans le dire cette hiérarchie qui s'est installée qui aura mis pratiquement un an et demi à être digérée par Vettel d'un côté, par Weber de l'autre, c'est-à-dire que on a le 1 Vettel, le 2 Weber et puis voilà, on n'a pas deux pilotes côte à côte, on a un pilote meilleur que l'autre et ça se voit sur la piste tout simplement.
Allez, on va passer au podium. Et en troisième place, il a marqué 351 points. Ça s'est pas joué à beaucoup, ça s'est joué à 10 points pour cette troisième place.
Et c'est pas moi qui l'ai fait, je suis pas responsable.
Ah non, parce que tu lui as donné 8 points, moi j'en ai mis 10, et Fab t'en as mis 12. Ça va, on est à peu près dans les mêmes eaux.
C'est moi qui suis plus sévère.
On est dans une dimension parallèle ce soir.
Voilà, c'est Fernando Alonso. Qui fait ce qu'il peut.
Bon, il a pas fait grand chose sincèrement ce week-end.
Non, c'est vrai.
Non, après c'est vrai que il y a la voiture qui est peut-être pas là. Ils ont quand même montré des dispositions en qualification lors des essais où ils étaient pas sincèrement très mauvais. Là pour le coup en course, j'ai retrouvé un peu le Fernando Alonso que j'avais vu. Alors c'est en Malaisie je crois. Un peu désabusé, ça y est. Peut-être que pour lui la saison ça y est elle est finie. Et en plus ils ont commencé déjà à essayer des pièces 2012 vendredi. Ouais. Ils ont essayé un aileron avant 2012. Donc je pense que il est en train peu à peu de sortir de sa saison. Voilà, il pourra plus jouer. Il a beau essayer de se convaincre que la deuxième place est jouable.
Oui, va-t-il seulement...
Il va essayer, mais avec une voiture qui est plus développée, alors qu'en face, ça développe encore un tout petit peu. Bon, ça me semble difficile. J'ai pas trouvé vraiment brillant sur la course. Et en plus, il s'est laissé déborder par Weber à plusieurs reprises. Un peu trop facilement.
Il est 3, mais c'est vrai que ça joue à 2-3 points, mais entre un Button qui est quand même sur une excellente dynamique, et comme vous l'avez dit, Mark Webber qui va sans doute être beaucoup aidé par son coéquipier à partir du Japon. Ça va être dur même cette deuxième place.
J'ai l'impression qu'il s'est pas battu en fait.
Tu parles du dépassement de Weber, c'est criant. C'est le mec endormi, oui. L'autre le contourne quoi.
Mais c'est devenu une habitude de Weber. Il aime bien dépasser Alonso. C'était déjà le cas à Spa. Et c'est vrai que là, le voir un petit peu démotivé, c'est rare, quoi.
Ouais, mais à la limite, je vais pas... Ça me gêne même pas, parce que dans un sens, ils ont tellement essayé de faire revivre cette saison qui était déjà fichue dès le début, que je leur en veux pas, ils se sont battus jusqu'au bout. Là, bon, bah, Singapour, ça sonne, voilà, enfin, que veux-tu faire oui. contre Red Bull, que veux-tu faire contre Vettel? Bon, moi, j'ai mis course propre parce que c'est pas, voilà, c'est course.
Voilà, c'est tout à fait ça, c'est course propre.
Ouais. Dans ce cas, passons à la deuxième place. Et j'étais en train de regarder, il est quand même tout le temps sur le podium du SAV depuis la Hongrie. C'est Jenson Button. Jenson, alors moi, je lui ai mis 18 points, Dino aussi.
Mais Fab, tu l'as. Le podium depuis la Hongrie, je crois, non?
Oui, c'est ce que, enfin.
Non, mais même.
En vrai, c'est pas impossible, oui.
Ah oui, ça fait un moment qu'il est sur le podium.
D'ailleurs, Fab, tu l'as même mis premier. Ben, là, on vient de le dire, il a quand même une super dynamique. Il est deuxième du championnat. Et peut-être, franchement, de tous, on attendait plutôt à Hamilton. Ouais, c'est ça, on s'attendait plutôt à voir Hamilton ou Alonso deuxième du championnat. Et si ça se trouve, ça va être lui. Et quand on connaît, tu l'as dit même la semaine dernière, la valeur de la deuxième place cette année, c'est quand même assez étonnant.
Moi, je l'ai mis premier, parce que, à l'inverse de Weber, je crois qu'il pouvait difficilement faire beaucoup mieux. C'est les vases communicants.
Bon, bah, il est revenu sur la fin, mais bon, on sentait qu'il y avait que trop d'écart, quoi.
Ouais. Bon, ouais. D'ailleurs, on en reparlera, ça aussi, parce que voilà. Mais, je vois pas difficilement comment on peut, pas trouver sa course excellente, encore une fois. Mm. Un pilote qui, parce que bon, c'est vrai qu'après la course, il a dit qu'il a dû pendant toute la course gérer, parce que McLaren lui a demandé de gérer, ils étaient pas sûrs au niveau de la consommation d'essence et des pneus, je crois. Et, bah, c'est ce que j'ai cru comprendre.
C'est bizarre, non, mais il y a quand même qu'à eux que ça arrive, quoi. À chaque fois, quand ils font une course, quand ils finissent à un truc, il y a toujours un problème, ils sont obligés de gérer un truc, etc. non, mais, c'est, sincèrement, j'ai rien contre les pilotes McLaren, mais cette équipe, j'en peux plus.
Bah, enfin, ça expliquerait quand même pourquoi les 12 derniers tours, il a pu les faire à fond et pas les autres, quoi. Enfin.
Ouais.
Ah, enfin, bon, après, je sais pas. Mais bon, voilà, moi, pour moi, c'est l'homme de la saison. Derrière Vettel, évidemment. Parce que, tu sais, dans le magma, là, de prétendant au titre de vice-champion, pour moi, c'est celui qui ressort le plus, qui a le plus prouvé, finalement.
Et puis, au final, faut le dire, c'est le, bon, ça s'est joué à un point, mais c'est lui le dernier, voilà. À pouvoir, bon, c'est que ça n'arrivera pas, quoique. Mais voilà, au final, il peut quand même se dire que voilà, c'est lui le dernier à pouvoir jouer le titre contre Vettel.
On avait dit Button, c'était cette saison qu'il pouvait vraiment exploiter des choses. Mais il le fait, il le montre.
Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Button?
Non.
Il est beau.
Non.
Oui. Allez, on va passer à la première place. Et sans surprise, il a marqué 675 points. Bon, Fab l'a mis que deuxième, hein, mais nous on l'a mis premier. C'est Vettel. Donc, qui rate pour un point. Alors, c'est hier, dans Dimanche chez Fin, Franck Lagorce, il disait, en fait, on a compris le geste de l'index qu'il a fait toute l'année. C'est parce qu'il savait. Il savait qu'il manquerait un point pour le titre.
Bah, il manque pas qu'un point pour le titre. Il manque un point à la prochaine course.
Oui.
Parce que, c'est pas toujours un point.
Ah oui, il peut plus. C'est-à-dire qu'il peut même pas ne pas gagner le titre après le Suzuka.
Oui, voilà, c'est ça. On dit il faut qu'il marque un point à Suzuka. Oui, pour gagner le titre à Suzuka. Sinon, il faut qu'il marque un point lors des 5 premières.
Oui.
Lors des 5 prochaines courses.
Rappelons que Button va être champion du monde s'il gagne toutes les courses et que Vettel ne marque pas un point. Scénario non probable.
Parce que là, il faudrait quand même avoir l'aide d'Hamilton, mais en plus l'aide d'Alonso et de Weber.
Et là, il fera pas l'unanimité.
Ah bah non.
Une course à la Vettel, j'ai envie de dire, comme d'habitude, départ premier, il gère.
Ouais.
Oui. Que dire, c'est parfait.
Ouais, bah, ouais, c'est.
C'est bon, c'est mais... que, bon, même si.
C'est toujours un petit goût de. Enfin, un petit goût quand même, un petit arrière-goût, tu dis, c'est bon. En même temps, ça nous arrange tous qu'ils prennent pas non plus 40 secondes, quoi, tu vois.
Oui.
Oui, enfin, faut quand même pas oublier qu'il y a une safety car.
Enfin, il en était pas loin quand même.
Parce que je crois qu'au moins la safety car, il a 20 et quelques secondes d'avance.
Ouais.
Voilà, donc. Ouais. Mais c'est là aussi où faut aussi relativiser la fin de Button. Button fait une belle course. Ouais, quand même, tout le monde se prend une pile dès le départ, quoi. La voiture, elle est juste. Alors, la voiture est incroyable, le pilote il est en pleine confiance. Lewis Hamilton l'a dit, si l'année prochaine il arrive avec la même confiance, c'est mal barré.
Non, puis c'est bien parce que bon, il gère, mais il va quand même chercher la victoire.
Oui,
quand même au final, là où il pourrait contenter d'être très peinard jusqu'à la fin de la saison. C'est la combien, la 9e cette saison?
Oui.
Bon, c'est pas beaucoup, Shinji. Moi, je me rappelle une époque où 9 victoires, ça nous effrayait pas.
Quand j'ai eu sur Facebook, là, le groupe Facebook de Fan F1, que je vous invite à rejoindre, les mecs, enfin, il y a un internaute qui a mis, ouais, c'est pas normal que Red Bull, ce soit pas les grands constructeurs qui soient devant les constructeurs, entre guillemets, non historiques. On s'est emmerdé cette saison vivement que les grands constructeurs reviennent. Enfin, je lui ai rappelé gentiment qu'il y a pas si longtemps que ça, il y avait un grand constructeur qui était en tête. Et qui faisait des saisons pratiquement à remporter toutes les courses.
Oui.
Et c'était autrement plus chiant qu'actuellement, parce qu'actuellement on a quand même de la chance que la deuxième place soit assez indécise.
En même temps, Red Bull met les moyens. Red Bull est un constructeur. Pas oui. De voiture, mais faut pas oublier, hein,
un constructeur de Formule 1, enfin.
C'est un constructeur de F1. Ah,
bah oui, oui, non, mais c'est
sûr. Des Formule 1.
Non, sinon vous avez quelque chose à rajouter sur la victoire encore de Vettel? Non?
Non.
On va passer au classement.
Ah si, peut-être quand même un petit drive-through, allez, soyons fous. Pour la règle qui a été enlevée de la possibilité de laisser passer les retardataires devant le safety car. Parce que je crois que là, on a vu l'exemple paroxystique du problème que ça pose, quoi.
Oui.
Trois voitures. Alors, je sais, ça fait partie de la course. C'est pas ça la question. Mais trois voitures entre le leader et le second de la course. Enfin, bon, c'est pas tellement que ça aurait été évidemment artificiel de relancer le suspense de la course de cette manière. C'est évident. Mais, ça a aucun intérêt. Enfin, ça, c'est aussi inutile finalement. Enfin, vaut mieux perdre du temps à laisser les voitures repasser.
Parce que c'est ça le truc.
Un tour ou deux, parce que c'était ça l'excuse. Oui, mais ça prend trop de temps. Mais ouais, mais les gars, vous préférez quoi? Qu'il y ait une course ou que ça prenne trop de temps? C'est dommage. Enfin, bon, ça fait toujours partie des problèmes, quoi. C'est dommage d'avoir instauré cette règle et de pas avoir laissé finalement la chance qu'elle se poursuive dans de meilleures conditions. Et là, hier, on a vu que c'était quand même, c'est typiquement le pire truc qui peut se passer, quoi. Là, c'est sûr que t'as aucun intérêt.
Il y a même eu des problèmes puisqu'on a Renault qui a mal indiqué la position à Bruno Senna en lui disant qu'il était à la lutte avec Pérez, sauf que Pérez était un tour devant, ce qui fait que Senna a commencé à attaquer Pérez, sauf que non, il était à un tour.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est dommage, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est dommage, mais en même temps, ça serait aussi dommage dans la situation inverse de voir Vettel, qui a quand même dominé le début de la course, se faire shipper la victoire à cause d'une safety car.
Non, mais totalement.
Et du coup, ça met aussi face à des problèmes qu'on a déjà connus par le passé, qui est Singapour 2008, où on a un pilote gaufre juste pour permettre à son coéquipier de se mettre.
Allez, au classement, Vettel est premier, hein, avec 265 points. À noter deuxième, c'est Alonso et Button, ils sont ex-aequo avec 192 points, Hamilton est à 181 et Weber 162. Donc au classement du SAV, ces 5 là peuvent être titrés. Au classement constructeur, Red Bull 427, McLaren 373 et Ferrari 276, c'est pareil, hein, les 3 peuvent être encore titrés, hein, au classement du SAV dans l'autre classement. Donc vous le savez, on l'a dit, hein, il a manqué un point. Donc Vettel à 309 points, Jenson Button à 185 points. Donc comme on l'a dit, il faut qu'il gagne toutes les courses, que Vettel en marque pas un seul point. Donc à noter, hein, quand même que Alonso est à 184, Weber 182 et Hamilton 168. Hein, parce que après on va s'intéresser. C'est quand même très serré, hein, pour cette deuxième place, même si Hamilton a un petit retard. Chez les constructeurs, Red Bull 491 points, McLaren 353. Donc là, c'est pareil, un Ferrari ne peut plus être titré avec ses 260 points. On va passer au fait marquant de la course.
Oh mince, ah, oubliez ça, tiens.
Oui, moi aussi.
Alors, quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Italie 2011? Vous avez été 50 à voter, on vous remercie, hein, de même qu'on remercie tous ceux qui ont voté au top 10. Est arrivé 3e, 9 votes, 18%, le strike de Liuzzi au départ. Hein, vous n'avez pas le goût du sang autant que je le pensais.
Hein. 14 tu méprises votes, nos auditeurs.
14 votes, 28%.
Je pense qu'ils ont de bas instincts, c'est indigne.
Donc 14 votes, 28%, le départ tonné truand d'Alonso. Et premier, 27 votes, 54%, la résistance de Schumi face à Hamilton.
Même moi j'ai voté pour ça alors.
Oui, je crois que.
Alors.
Par contre, les commissaires n'ont pas voté pour ça.
Non. Ils ont pas vu.
Ah bon, il y a eu une résistance ou ça?
Qu'est-ce que je vais dire? Non, il n'y a pas eu 36 000 événements pendant cette course. Hein. Je vais dire encore Hamilton qui débranche son cerveau.
Ah là, populiste.
Oui, carrément.
Vettel a un point du bonheur.
Très bien. Et Fab?
Bon, bah, de toute façon, il n'y en a pas 50 000, hein. Schumacher dans le mur.
C'est à peu près les trois, de toute façon. Donc, quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Singapour 2011? On vous propose encore Hamilton qui débranche son cerveau, Vettel a un point du bonheur, et Schumacher dans le mur. Donc, rappelle-nous, Dino, pour voter. Bah, de toute façon, normalement, vous avez déjà vu le vote, puisque vous nous écoutez.
Merci,
donc,
Shinji.
Vous êtes allé sur le topic.
Voilà, merci Shinji.
on va passer. Je n'ai pas donné mon drive-through. Alors, c'est vous vrai. Deux, vous l'avez donné.
Oh, est-ce utile?
Oui. J'aurais même donné deux.
C'est ouais. Vrai.
Bah, comme ça, t'en as donné un pour Shinji. Allez, on passe à la suite.
Oh. Non, non.
Si vous voulez que je donne pas de drive-through, je donne pas de drive-through.
Ah, vas-y, donne, j'y allez. Ah. Ah, c'est pas contre Ferrari, c'est pas contre Vettel.
Ça n'est pas contre Ferrari, c'est pas contre Vettel.
Ah, d'accord.
Des vibreurs?
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Eh bien, ça parle des vibreurs et ça va parler plus généralement des organisateurs, je trouve, de ce Grand Prix de Singapour. Si je devais résumer, le Grand Prix de Singapour, j'ai l'impression que c'est un Grand Prix qui veut être Monaco et qui se comporte un peu comme le César Palace. Par.
Non mais.
Hein, des cirques. Franchement, des vibreurs qui se détachent. Non mais t'en connais beaucoup des circuits où il y a des vibreurs qui se détachent. Ils ont dû refaire les deux tiers du circuit, je crois, hein, pendant la nuit entre vendredi et samedi. Hein. Des clous qui dépassent des vibreurs. J'ai envie de dire, pour exploser des pneus, on a déjà des McLaren.
Oh. Alors ça, excuse-moi de te dire que c'est un peu gratuit.
Oui, c'est gratuit, c'est gratuit. Mais voilà, alors, c'était un problème qui n'était jamais arrivé pour l'instant en 4 ans. Je sais pas ce qui a changé.
Ah, voilà, tu as dit l'information cruciale.
Ah oui, non, d'accord.
Tu reproches à Singapour de vouloir prendre pour le Monaco. Voilà, c'est comme si tu reprochais à un gamin de 4 ans de pas se comporter comme un homme de 60 ans. Je pense pas que ce soit dû au non sérieux, c'est faut pas oublier tout simplement que c'est un circuit urbain, c'est un circuit qui est adapté dans une ville et que bah il y a des problèmes qui sont des problèmes nouveaux.
Mais c'était quand même très étonnant des nouveaux parce que pour le coup
mais on sait pas pourquoi.
Bah
je sais pas.
Vous avez évoqué le matériel qui n'avait pas été renouvelé en fait en 4 ans, mais
ah bah tiens.
Oui mais non, Monaco quand tu regardes Monaco ils ont pas changé le circuit ou voilà.
C'est vrai.
Ah bah non.
Regarde en 4 ans ils ont même
une longue évolution Monaco. Hein.
Voilà. En quatre ans ils ont même pas pensé à insonoriser les cabines. Ouais, mais vrai. Bon c'est autre chose.
Oui mais enfin ça c'est pareil. Enfin moi il me fait rire Malbran qu'à chaque fois il est en train de gueuler parce qu'il n'entend pas. De toute façon à chaque fois qu'il va quelque part il gueule parce qu'il n'entend pas ou il gueule parce qu'il fait pas ci, il fait pas ça. Ouais, à un moment donné faut arrêter. Il est dans un circuit en ville. Moi je paierais pour avoir sa place et pas entendre les conversations radio. Donc oui. À un moment donné faut qu'il arrête quoi. Voilà qu'on lui demande pas. Il a passé toute sa course à se plaindre qu'il n'entendait pas les radios. Rajoutez il a commenté plus la course. Mais commente là, on en a rien à foutre. Nous on les écoute à la maison les commentaires radio, t'as pas besoin de nous les traduire chacun. Donne-nous des informations en plus. Il a Twitter. Sur Twitter, il y a plein de trucs qui sont dits. Pourquoi est-ce qu'il nous les donne pas? C'est Jean-Louis Moncey qui est obligé de recevoir des SMS. Parce que Jean-Louis Moncey ne connaît pas Twitter. Jean-Louis Moncey, il reçoit des SMS.
Demande pas trop à Jean-Louis Moncey, s'il te plaît.
Non, mais j'aime le côté authentique de Jean-Louis Moncey. Mais Jean-Louis, Jean-Louis Moncey, il nous donne des informations que lui envoient des gens par SMS et tout. Donc, voilà, c'est qu'il apporte ce genre de contribution et qu'il arrête de se plaindre parce qu'il n'entend pas un truc, quoi.
Mais c'est vrai que ça faisait vraiment paradoxe alors que c'est quand même un circuit qui se veut presque fashion, enfin un Monaco quoi, clairement un Monaco d'Asie, et ça faisait tâche je trouve. Donc voilà, c'est mon drive-thru cette semaine.
Ah donc du coup c'est comme ça on va pouvoir passer au concours, c'est ça?
Eh oui, on va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con. Quoique.
Alors, le concours Top Opposition, avec cette question de Bilo qui nous était posée il y a 15 jours. Pourquoi les coups de Sumatra ne devraient-ils pas être frappés durant le Grand Prix de Singapour? Une question qui t'a beaucoup interpellé, c'est pour ça que tu l'as choisi, Shinji. As-tu seulement trouvé la réponse?
Alors, j'avais regardé, mais j'avais pas trouvé.
Alors, tu sais ce que c'est que les coups de Sumatra?
Bah non, justement, c'est ce que j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas... Non, j'ai pas cherché très longtemps. Hein, donc
ah bah d'accord. Ça explique. Alors, les coups de Sumatra, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire différentes réponses. Est-ce que j'en ai une
Parce que Sumatra, c'est pas juste à côté. Enfin, c'est en Indonésie, Sumatra.
Oui, voilà, c'est... Voilà. Ah, tiens, je vais lire la dernière, qui est pas mal. Les coups de Sumatra, à ne pas confondre avec les cas de Samatru, qui est un personnage de manga, ni avec les coups de dessous le matelas, qui n'a rien à voir du tout avec le sujet, sont des orages très violents et courts, qui s'abattent parfois sur Singapour, souvent entre mai et septembre, mais parfois sur des périodes plus longues, ou sur des périodes plus courtes, à cause du réchauffement planétaire, mais aussi des cycles normaux de changement du climat, et puis avec tout ce qu'il nous envoie dans le ciel, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. De plus, et contrairement à ce que l'on peut croire, les coups de Sumatra ne sont pas non plus un DVD de la collection Découverte du Monde de Marc Dorcel, dont vous pouvez fermer Microtorrent. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la définition Wikipédia. La mousson du sud-ouest, de juin à septembre, est nettement plus insignifiante sur le plan des précipitations, bien qu'elle apporte parfois quelques orages matinaux violents du nom de coups de Sumatra. Donc, logiquement, nous ajoute cet auditeur, des orages matinaux n'éclateront pas lors d'un Grand Prix de nuit, donc le soir.
Oui, ça paraît logique.
Donc, je vais te proposer les questions qu'ils nous ont envoyées, ces petits
copains.
Alors, question number one. Parmi les 28 pilotes du plateau 2011, s'il faut rajouter tous ceux qui ont été virés, combien ont eu un coéquipier japonais durant leur carrière de Formule 1? En ne comptant pas, bien sûr, les japonais qui ont roulé le vendredi ou etc. D'accord? Ensuite, deuxième question. Qui est Iso Yamura? Troisième question. Qu'était à l'origine le circuit de Suzuka? Et enfin, dernière question, la plus étrange. Comment dit-on « j'ai divorcé » en japonais? Voilà.
C'est marrant, j'ai une idée.
Voilà. Donc, je dis, la question dis-tu?
Attends.
Il est en train de chercher comment on dit « j'ai divorcé » en japonais.
J'ai divorcé en japonais. J'ai bien envie de prendre cette dernière, parce que c'est pareil, c'est un truc con, mais je sens que c'est un truc super con.
Oui. Donc, tu prends la dernière.
Ouais.
J'en doutais qu'il prenne celle-là. Voilà, c'est bravo Globen. On ne peut pas lancer de nom. Hein. Bravo Globen qui nous a donc proposé cette question à laquelle vous pourrez répondre pour le prochain Grand Prix du Japon, qui est la suivante. Comment dit-on « j'ai divorcé » en japonais?
Il y a un truc avec des sous ou non?
Non, c'est plus simple.
C'est un nom de pilote?
Non. Et donc, pour voter, pour répondre, il vous suffit d'aller sur le site fanf1.com, rubrique en plus, contact, de choisir le SAV de F1 comme destinataire. Ou alors, le plus simple, c'est de nous envoyer un mail pour savf1@yahoo.fr. Vous pensez bien évidemment, avec votre réponse à cette question, à nous joindre une question qui portera sur le Grand Prix suivant, qui sera le Grand Prix de Corée Sud. Et de nous fournir une réponse, hein. Parce que là, si on n'avait pas la réponse à cette question-là, on aurait l'air con. Enfin, j'aurais l'air con.
Mais c'est trouvable.
Voilà. Vous chercherez. Et donc, on peut saluer donc les autres participants, hein. Zilex qui vous posait la question sur Iso Yamura. On vous laissera chercher ou acheter directement le guide du SAV de la F1, hein, puisque la réponse est directement tirée du guide du SAV de la F1. On peut également remercier de sa participation Steve qui avait posé la question sur les 28 pilotes du plateau 2011 qui ont eu un coéquipier japonais. Il me semble que c'est 10 pilotes. Et enfin, nous pouvons remercier le grand, le magnifique, comment dire, l'inoubliable Fab007 qui a fait sa petite BA de l'année, hein,
oui.
Puisqu'il a participé à sa question de la saison.
Ouais.
Et qui nous demandait quelle était l'origine du circuit de Suzuka, et la réponse est Fab.
C'était un circuit d'essai pour Honda.
Bravo Fab, quelle bonne réponse.
Merci, wow. Merci. Bah, à défaut d'avoir bien répondu à la question.
Tu as gagné le droit de continuer l'émission.
C'est gentil.
Voilà. Donc voilà, c'est tout pour le concours Top Opposition.
On va passer au Grand Prix du Japon. C'est à Fab.
Eh oui.
C'est à Fab de taffer.
Ouais.
Alors, bien sûr, Suzuka est une destination prisée, hein, de la Formule 1, bah, moi j'ai fait les 7 bonnes raisons de ne pas y aller, évidemment.
Oui, c'est logique.
Ça me paraît évident.
Nous admirons ton courage.
C'est gentil. Alors, la première raison, elle tient en deux mots, hein, c'est le suspense. Voilà. La deuxième raison, c'est que ça va commencer quand même à bien faire ces vannes sur Bertrand Baguette.
Yeah.
La troisième raison, c'est qu'en cas d'accrochage, je crains que Jarno Trulli décide cette fois de produire un manga. La quatrième raison, c'est que, comme vous le savez, hein, le Japon est le berceau du karaoké. Et justement, une soirée karaoké sera organisée après la course. Alors vous allez me dire, en quoi c'est une raison de ne pas aller au Japon, finalement, hein?
Oui, en quoi c'est une raison de ne pas aller au Japon, Fab?
Ah, parce que Sutil t'a invité, hein, tout simplement. Alors, la cinquième raison, déjà, tsunami, incident nucléaire, typhon, crise politique et économique majeure. Vous croyez vraiment que c'est le moment, avec tous ces dégâts, de faire venir Schumacher et Hamilton au Japon?
J'adore la chute qu'on n'attend pas.
Sixième raison, surimi, sashimi, raiko, kimono, autant d'éléments de la culture nippone qui nous rappellent un peu Kimi et qui nous font mal. Reviens Kimi, tu nous manques.
Oui, tu nous manques.
Et enfin, la dernière raison, c'est que moi, la domination de Vettel, bah, je peux plus la saquer.
Bah encore c'était dit mon Nino.
Donc après c'est bonnes raisons. Passons au pronostic.
Bah pour Pirelli, moi j'ai pronostiqué parce qu'on FanF1 participe au Pirelli GP Challenge et donc j'ai écrit celui du Japon où je mets Vettel. Donc Vettel.
Oui, ça se tient.
Bah je prends Vettel. Hein.
Et toi Fab?
Allez, Hamilton.
Sinon pour le 9 octobre, je peux parier sur les All Blacks. Mais pas à Suzuka, hein. Parce que de toute façon, ils rentrent pas dans une Formule 1, donc
oui, c'est vrai.
Ou difficilement.
D'ailleurs, en parlant de Suzuka, on peut en profiter, puisque on a appris sur Eurosport après les qualifications, c'est après les qualifications, qu'il n'y aurait pas, que la course ne serait pas diffusée sur TF1, justement en cause du rugby apparemment.
Et, ouais.
Et qu'elle sera donc diffusée en intégralité sur Eurosport, donc à la même manière que ce qu'on en avait fait sur sur le mémorable Grand Prix du Canada.
Cool, on en a pour 6 heures de course.
On vous reproposera un live type ce que l'on propose en qualification. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez la course devant les yeux et vous voulez discuter, voilà, on sera à votre disposition pour discuter, etc. Dans le même contexte que les qualifications qui auront eu lieu la veille, hein, qui, elles aussi, ont tendance à durer quelques heures à Suzuka.
Sur ce, on va arriver à la fin de l'émission. On va te remercier, Fab, de nous avoir accompagnés encore cette fois-ci.
Je vous remercie encore une fois de m'avoir autorisé à vous accompagner, finalement.
Vas-y, fais-nous des éloges, c'est le moment.
Non, ça suffit maintenant. Les gens vont douter de ma sincérité.
Allez, sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés. Hein. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Hein. Et sur ce, on va se quitter, comme d'habitude, sur... c'est plus de la poésie.
Ah non, cette semaine, vous allez tout comprendre.
Ah, c'est bien, il y a du progrès.
C'est une spéciale cette semaine.
Allez, ciao à tous, et on vous laisse sur ces quelques mots.
Le philosophe a dit un jour, à Singapour d'ailleurs, je me rappelle, c'était un dimanche après-midi, il a dit « Tant va Lewis dans Massa qu'à la fin, il se fâche ».